qui se poursuit, étant donné que l'année dernière, nous avons déjà travaillé ensemble sur une thématique concernant la photographie. Ce partenariat se poursuit pour beaucoup de raisons, parce qu'on est très amis avec Dominique Monconduit, qui est le doyen de l'UFR Lettres Langues, avec lequel nous organisons diverses manifestations et puis journées d'études, et en particulier ces journées d'études consacrées au cabinet de curiosité. Et là, cette année, nous organisons donc un séminaire qui s'intitule « À quoi pense la littérature ?» Donc il faut que je n'oublie personne, en partenariat avec le Master Littérature et Politique et le Master Lettres et Arts de l'UFR Lettres et Langues de l'Université de Poitiers, ainsi que le laboratoire Forel, que vous connaissez tous, et la Maison des sciences de l'homme. Donc, sous la responsabilité scientifique de Michel Briand, directeur de laboratoire Forel. C'est vraiment un plaisir de passer cette soirée avec vous. Et je sais que, Madame Sapiro, je ne vous connaissais pas. Je vous connaissais parce que j'avais vu vos livres, jusqu'à ce que je vous entende sur France Culture. Et ça, c'était au mois de... Bon, c'était, vous le savez peut-être mieux que moi, parce que je pense que je vous ai écrit à peu près au mois de juillet. Et je me suis dit, c'est génial, ça, c'est vraiment, elle est vraiment extraordinaire. Donc, il faut l'inviter à Poitiers. Voilà, et vous avez dit oui tout de suite. Et c'est vraiment très, très gentil de votre part, parce que je sais que vous êtes très, très occupé. Mais venir aussi à Poitiers devant ce public particulier d'étudiants et dans le cadre de ce partenariat unique entre un centre de culture scientifique et l'université, ça vaut le coup. Donc, je vous remercie infiniment. On sera très heureux de vous écouter. Je passe la parole à Monsieur Riodel.
Merci beaucoup Anne Bonnefoy et à l'espace Pierre Mendès France donc de bien vouloir continuer ce partenariat. L'année dernière, en fait, dans le cadre des animations, des parcours jumeaux que sont ceux de littérature et culture de l'image et littérature et politique, la dominante était plutôt image, comme vous l'avez compris. Et cette année, elle sera un peu plus politique, même s'il y aura aussi de l'image, puisqu'il est prévu, par exemple, la venue d'Antoine de Bec pour parler du cinéma. Antoine de Bec, quand on lui a soumis la question « À quoi pense la littérature ?», il a tout de suite répondu « Bah, au cinéma oui. !» Bon, et aujourd'hui, donc, nous avons le plaisir de commencer ces séances avec Gisèle Sapiro, qui est directrice de recherche au CNRS et qui enseigne à l'École des hautes études en sciences sociales donc à Paris. Elle dirige aussi le Centre européen de sociologie et de sciences politiques. Elle est l'auteur de bien des ouvrages qui s'intéressent justement à ce croisement du champ politique et du champ littéraire, avec La guerre des écrivains 1940-1953. Je voudrais juste m'arrêter deux secondes sur ce titre parce qu'il me semble qu'il dit déjà beaucoup de choses. La guerre des écrivains, c'est bien sûr, vous l'aurez compris avec les dates, à la fois le contexte de guerre, mais aussi le champ un peu guerrier et conflictuel qui est celui de la littérature. Donc c'est bien entendu envisager d'un point de vue sociologique la dimension littéraire. Et on peut citer aussi parmi donc les ouvrages de Gisèle Sapiro celui-ci, La responsabilité de l'écrivain, que j'ai pris sur une chaise. Pardon ? Voilà, donc je vous le restitue, mais c'était pour le montrer aux étudiants et au public. Et puis il y a aussi donc d'autres articles, de nombreux articles sur l'engagement des intellectuels, sur la traduction, la sociologie de la traduction. Je signale notamment en Translatio le marché de la traduction en France à l'heure de la mondialisation, les contradictions de la globalisation éditoriale, et puis plus récemment l'espace intellectuel en Europe. Donc on voit que c'est un champ, le mot champ revient souvent dans ma présentation, mais c'est sans doute pas un hasard. Donc un champ très, très vaste, à la fois géographique et en termes de thématiques et de disciplines. Donc le mieux, c'est de tout de suite laisser la parole à Gisèle Sapiro, en la remerciant encore une fois d'être venue en dépit de toutes les contraintes qui la retenaient à Paris, et en vous remerciant aussi parce que, comme l'a dit Anne Bonnefoy, vous êtes très sollicité en ce moment avec Bruit de langue, et je suis très, très heureux de voir que vous êtes nombreux ici. Merci.
Merci, monsieur. Merci de cette présentation et merci de cette invitation. Donc, je suis heureuse d'avoir l'occasion de partager avec vous le fruit de cette réflexion qui a duré un certain nombre d'années et qui est née d'un questionnement tiré de mon premier livre, La guerre des écrivains, qui portait sur les choix politiques des écrivains français sous l'occupation allemande pendant la Deuxième Guerre mondiale, après la défaite de 40, un grand débat a animé le monde intellectuel sur la question de savoir quelles sont les responsabilités de la défaite. Et parmi les responsables de la défaite, les écrivains ont été désignés, la littérature moderne a été désignée comme responsable de la défaite militaire de la France. Alors vous me demanderez comment est-ce que la littérature peut être responsable d'une défaite militaire. Eh bien, elle a été accusée de subjectivisme, de pessimisme, de narcissisme et d'avoir amolli les énergies. Hein, c'était les termes. Voilà. Donc tout ça reposait sur une croyance, sur les effets une croyance dans les effets de la littérature, qui m'a interrogée, qui m'a interpellée. Voilà. Et le deuxième, donc il y a ce grand débat sur la responsabilité de la littérature dans la défaite, se développe de 40 à 43. Enfin, ça SM de ça part de la zone nord en zone sud et. Et puis il revient en fait en 1945 d'une manière encore plus violente, on peut dire, puisqu'il ressurgit au moment des procès des écrivains qui ont collaboré avec les Allemands et qui sont poursuivis pour intelligence avec l'ennemi. Donc pour le crime de trahison, un crime qui était puni de mort. Et on va avoir un certain nombre de procès qui vont déboucher sur des condamnations à mort d'écrivains et des exécutions d'écrivains, notamment le plus connu dont vous avez sans doute entendu parler, qui est Robert Brasillach, mais il y en a eu quelques autres. Et autour de ce débat, j'y reviendrai à la fin, se poser la question de la responsabilité, du degré de responsabilité de l'écrivain et aussi de la question de la responsabilité pénale. Hein. Voilà, et c'est aussi le fond de la théorie sartrienne de la littérature engagée que Sartre développe à ce moment-là, en lien avec ses procès, hein, j'y reviendrai. La question des procès était centrale, et c'est de là qu'est née mon enquête, cette tentative de généalogie, en fait, de la notion de responsabilité de l'écrivain et de la croyance dans le pouvoir des mots, dans le pouvoir de la littérature. Alors, en France, évidemment, ce pouvoir cette croyance est très forte, hein, sans doute plus que dans d'autres pays. Ezra Pound a été interné dans un hôpital psychiatrique pour ses opinions, son engagement fasciste, mais il n'a pas été mis en prison ou condamné à une peine. Et de même, alors Céline, lui, par contre, a invoqué la question de la pathologie pour se défendre, et ça ne lui a pas permis d'échapper à sa peine. Il a été ensuite amnistié, c'est pour autrement, mais enfin, c'était pas un argument suffisant. Voilà. Alors, donc, en remontant à cette histoire, à cette généalogie, j'ai aussi tenté de comprendre comment, en fait, les écrivains ont participé aux luttes pour la liberté d'expression en France. Parce que la responsabilité pénale, ça veut dire évidemment des restrictions à la liberté d'expression quand on parle de responsabilité pénale pour l'écrit. Hein, puisque les écrivains collaborationnistes, après la guerre, ont été jugés pour ce qu'ils avaient écrit pendant la guerre. Donc là, il y a une législation qui restreint la liberté d'expression, la liberté de presse. Et donc la question des limites de cette liberté, de qu'est-ce qu'on attend de l'écrivain, qu'est-ce que la société attend d'un écrivain, comment ça se traduit dans le cadre de ces procès, voilà qui a fait le cœur de mon enquête. Et donc j'ai constaté que ces luttes pour la liberté d'expression ont été largement menées depuis le 19e siècle au nom de valeurs comme la vérité. Les écrivains se sont aussi souvent réclamés de la science, du droit à la connaissance dans ces luttes. Ils ont souvent, sur le modèle des philosophes du XVIIIe siècle, revendiqué leur droit à exercer une fonction critique dans la société et conçu leur mission comme étant d'éclairer l'opinion pour permettre aux citoyens de développer leur propre jugement. Mais est-ce que cette liberté qui est revendiquée signifie qu'on peut tout dire ? Est-ce que les mots ont un effet ou n'ont pas d'effet ? Et s'ils en ont, quelle responsabilité est-ce que cela crée aux écrivains ? Voilà, ce sont ces questions que j'ai examinées dans cet ouvrage en essayant de comprendre, de montrer quelles réponses ont été apportées à ces questions dans différents moments historiques qui scandent l'histoire de la liberté de presse. Je reviendrai sur ces quatre moments, mais je veux d'abord vous donner un peu le fondement, le cadre théorique, conceptuel de cette réflexion. Voilà, donc la définition de la responsabilité de l'écrivain apparaît comme l'enjeu de lutte qui dépasse largement le monde des lettres. Elle est codifiée, comme je l'ai dit, à travers les restrictions à la liberté d'expression, donc dans le droit. C'est la responsabilité pénale qui en font donc une affaire d'État. Hein, en France, c'est l'État qui poursuit ceux qui enfreignent ces restrictions à la liberté d'expression, alors qu'aux États-Unis, par exemple, c'est beaucoup plus sur la base de plaintes privées. On verra que d'ailleurs, il y a une évolution récente qui va plus dans ce sens. Mais en France, selon la législation en vigueur, l'État peut toujours poursuivre des écrits quand il s'écarte quand il transgresse les restrictions à la liberté d'expression. Donc l'État, le droit, et bien sûr, c'est aussi, à l'époque à laquelle je suis remontée, une affaire d'Église qui entendait exercer un contrôle sur les consciences. Et puis, avec l'alphabétisation et l'extension du lectorat, ça devient, cette question de la responsabilité d'écrivain, aussi l'affaire de médecins, de sociologues, de criminologues, d'entrepreneurs de morale, les ligues de moralité. Donc, vous voyez, ce n'est pas simplement les écrivains qui sont concernés par cette question de leur responsabilité. Or, ce que j'essaie de démontrer dans ce livre, c'est que les écrivains ont en grande partie élaboré leur éthique de responsabilité en se confrontant à ces attentes, sociales, et en s'en autonomisant. C'est-à-dire que les procès les ont amenés à devoir affûter des arguments pour se justifier, pour revendiquer leur liberté. Et c'est dans le cadre de ces luttes que se sont affirmées deux postures opposées, que vous reconnaîtrez sans doute si vous êtes des étudiants de lettres, mais qui ont en commun de revendiquer leur autonomie par rapport aux définitions hétéronomes de la responsabilité. Hétéronome, ça veut dire définie selon des règles qui ne sont pas propres à la littérature, la définition hétéronome étant une définition selon des règles propres à la littérature. Ces deux postures sont d'un côté l'art pour l'art, hein, qui remonte à Théophile Gautier et qui va jusqu'à, on peut dire, Robe Grillet, le nouveau roman, en passant évidemment par Flaubert, qui est une figure centrale, qui a été aussi mise en avant par rapport à cette posture de l'art pour l'art, et la posture opposée de l'intellectuel engagé pour des causes universelles comme la justice ou la liberté, qui a été incarnée évidemment par Zola et par Sartre de la manière la plus paradigmatique, on peut dire. Hein. Voilà, donc deux postures complètement opposées, mais qui sont fondées sur la revendication de l'autonomie de l'écrivain, de la littérature et ses droits particuliers. Alors, les procès littéraires sont évidemment un lieu d'observation privilégié de ces luttes, de la confrontation entre ces différentes conceptions de la responsabilité qui sont explicitées et rendues publiques. D'où le choix de centrer l'analyse sur quelques affaires célèbres qui ont marqué durablement les représentations de cette responsabilité et qui en ont aussi modifié les enjeux. Et le droit a cette particularité qu'il y a une autoréférentialité, comme la littérature qui se réfère toujours à l'héritage, au patrimoine commun, culturel, littéraire. Le droit, c'est pareil, on se réfère toujours aux affaires antérieures et puis aux règles de droit antérieures. Donc du coup, il y a une sorte de continuité de ces affaires qui font à chaque fois école et qui sont citées d'un procès à l'autre. Alors la réflexion sur le rôle de la responsabilité pénale est aussi liée en fait à un célèbre article de Michel Foucault qui s'intitule « Qu'est-ce qu'un auteur ?» qui montre en fait que la responsabilité pénale a joué un rôle majeur dans l'affirmation de la fonction auteur par l'imputation d'une série de discours publiés à un auteur. Hein. Ce principe de classification, d'attribution en fait, des discours à un auteur, ça n'a pas été de tout temps. c'est, ça caractérise la littérature moderne, mais ça n'a pas existé de tout temps. Et de fait, ce que montre Foucault, c'est que historiquement, la responsabilité pénale précède même la propriété littéraire. L'appropriation de ses œuvres par un auteur. Ce que dit Foucault, c'est qu'avant d'être un bien, un produit dont l'auteur peut revendiquer la propriété, le discours a été un acte susceptible d'être puni. Et de fait, la responsabilité pénale est introduite dans la législation royale en 1551 avec l'édit de Chateaubriand qui rend obligatoire l'apposition du nom de l'imprimeur et de l'auteur sur toute publication. Évidemment, ce n'est pas pour glorifier l'auteur et l'imprimeur, mais c'est plutôt pour pouvoir le poursuivre en cas de transgression de tout ce qui est soustrait à la discussion à cette époque. Et à partir de 1554, la faculté de théologie de Paris adopte le nom d'auteur comme principe de classification des livres censurés. Donc vous voyez que ce principe même qui est aujourd'hui tout notre principe de classification des bibliographies par le nom d'auteur, il vient en fait de la question de la censure et de la responsabilité pénale. Voilà. Donc cette paternité finalement a été d'abord imposée par les pouvoirs pour contrôler la circulation des discours, mais elle va être assumée par les hommes de lettres au siècle suivant, au XVIIIe siècle, pour fonder leurs aspirations à faire reconnaître leurs droits sur leur œuvre, aspirations qui ont abouti en France dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, avec le décret de 1777, reconnaissant le droit d'auteur. Hein, c'est le premier moment de reconnaissance, il y aura un deuxième moment sous la Révolution française. Et c'est aussi, mais en fait, les revendications des écrivains datent déjà du XVIIe siècle. Vous trouverez ça chez Alain Viala dans Naissance de l'écrivain, où il montre déjà ces revendications qui existaient. C'est aussi à cette époque, XVIIIe siècle, que la notion de responsabilité apparaît dans son sens juridique moderne. Mais les écrivains ne vont pas tarder à la retourner contre l'État et contre les pouvoirs en élaborant, à partir de ce moment du XVIIIe siècle, leur propre éthique de responsabilité distincte et souvent opposée à leur responsabilité pénale. C'est ce que font les philosophes du XVIIIe siècle lorsqu'ils proclament l'autonomie de la raison, qui refuse de se subordonner à d'autres principes qu'elle-même et qui donc s'émancipe du joug de la religion. Donc l'autonomie de la raison, c'est de dire la raison ne doit rendre de compte qu'à elle-même. Donc vous voyez là ce processus d'autonomisation. Cette affirmation d'une éthique de la responsabilité de l'écrivain participe en fait d'un processus beaucoup plus large de subjectivation de la responsabilité dans lequel les écrivains, et les écrivains au sens 18e, c'est-à-dire au sens large, ont joué un rôle important. Alors ce processus de subjectivation de la responsabilité, il a été analysé par un sociologue durkheimien, un élève d'Émile Durkheim, qui est un peu oublié aujourd'hui, Paul Fauconnet, qui était un sociologue du droit, et dans un livre majeur publié en 1920, mais jamais réédité, qui s'appelle « De la responsabilité ». Et Paul Fauconnet, en fait, qui m'a aussi beaucoup servi pour ma réflexion, distingue deux définitions de la responsabilité, de manière très générale. Hein, ça n'a rien à voir, il ne parle pas de l'écrit, ça ne le concerne pas, de la responsabilité en général. Donc, une définition objective et une définition subjective. Objective et subjective selon les modalités de désignation du responsable d'une faute. Hein, comment est-ce qu'on désigne un coupable, un responsable d'une faute ? Alors la désignation objective, elle repose sur un lien matériel, une sorte de contiguïté, mais ne suppose pas de lien intentionnel entre celui à qui la faute est imputée et le crime. C'est cette conception qui prévalait au Moyen-Âge, et l'exemple extrême de cette conception objective, c'est l'expiation rituelle, où en fait on n'a pas de lien interne en fait, entre celui qui est désigné comme responsable de la faute et la faute elle-même. Donc il y a juste un rapport de contiguïté, on désigne un responsable pour porter une faute qui est à la fois collective et définie de manière objective. La définition subjective de la responsabilité met l'accent sur l'intentionnalité, avec comme conception extrême la religion qui considère l'intention même comme une faute. Il suffit l'intention même est un péché du point de vue de la religion. Et la conception subjective en fait se développe avec le processus d'individualisation qui consiste en l'intériorisation progressive de la faute, et la confession est née en fait de cette intériorisation de la faute. Les aveux deviennent condition de l'imputation. D'ailleurs, la torture, c'est lié à ça, parce qu'il faut obtenir les aveux. Donc, c'est juste donc supposer qu'il y a un lien interne entre la personne. Il faut qu'on reconnaisse qu'il y a un lien interne d'intentionnalité entre la personne et le crime qui lui est attribué. Voilà. Et la conception juridique moderne de la responsabilité est un compromis en fait entre ces deux conceptions objectives et subjectives. L'imputation de la responsabilité suppose un acte matériel. On ne punit pas sur des intentions. Il faut qu'il y ait eu un acte. Mais l'intention aggrave la faute. C'est la différence entre un acte intentionnel et un acte non intentionnel. Si vous avez tué quelqu'un par un accident de voiture, évidemment, la responsabilité n'est pas de même ordre que si vous avez commis un meurtre volontaire. Et la responsabilité subjective suppose du coup le libre arbitre. On ne punit pas les animaux, les enfants, les aliénés, puisqu'il n'y a pas d'intentionnalité, il n'y a pas de conscience de la faute. Bon, en fait, on pourrait penser que c'est un processus linéaire, cette subjectivation de la responsabilité, mais en fait, oui, juste avant, vous rappelez que ces deux la définition objective et subjective, vous reconnaîtrez dans la conception juridique moderne, c'est les deux questions qu'on pose à la fin d'un procès au jury. Est-ce que l'accusé a commis le crime qui lui est imputé? Donc là, c'est la responsabilité objective, le matériel. Et est-ce qu'il l'a commis intentionnellement? Voilà, donc c'est ça les deux questions. Donc cette subjectivation n'est pas un processus linéaire. Il y a des oscillations permanentes entre les deux conceptions. Il y a eu un moment à la fin du XIXe siècle, d'ailleurs l'étude de Fauconnet est née de ça, où la criminologie de l'italien, du criminologue italien Lombroso, qui mettait en avant l'hérédité, a mis l'accent sur la définition objective. Parce que si l'acte criminel est déterminé par une tare héréditaire, selon ces conceptions qui existaient à l'époque de l'hérédité, eh bien, le criminel il n'est pas responsable, puisque c'est une hérédité. Donc, enfin, pas responsable au sens de intentionnellement, de manière subjective. On ne peut pas lui reprocher de cette hérédité. Et pourtant, il reste, selon Lombroso, dangereux pour la société. Donc, selon Lombroso, il faut proportionner la peine. Habituellement, on proportionne la peine à l'intentionnalité, à la responsabilité subjective. Selon Lombroso, il faut proportionner la peine à la dangerosité de la personne, indépendamment de son intentionnalité et de son libre arbitre. Bon, en France, il y a une réception, je vais pas rentrer là-dedans, mais une réception de cette théorie où on a tempéré en fait la définition objective avec la prise en compte des effets du milieu et on a laissé toujours une certaine place au libre arbitre. Mais par exemple, on trouve des traces de l'application dans le droit français de la conception lombrosienne avec la loi de 1884 sur les récidivistes qui était considérée comme incurable. Et aujourd'hui, cette question de la responsabilité objective a une actualité tout à fait... Donc c'est intéressant à regarder, à avoir ça en tête. Alors, en quoi ça nous concerne? Moi, j'ai essayé de transposer, en fait, cette question de cette distinction entre responsabilité objective et subjective à la question des crimes écrits. Pour comprendre les enjeux de la définition de la responsabilité pénale de l'écrivain. Parce que d'un côté... Là aussi, pour les crimes écrits, il faut qu'il y ait un acte matériel. On ne punit pas des individus sur leurs pensées coupables ou sur leurs intentions seules. C'est quoi l'acte matériel dans ce cas-là? C'est la publication. C'est ça l'acte matériel. C'est pourquoi, en fait, dans la législation, le premier responsable, c'est celui qui imprime. Alors au XVIIIe siècle, celui qui imprimait, c'était l'auteur lui-même, il faisait imprimer ses exemplaires. Avec la division du travail entre l'imprimeur et l'éditeur, ça va être l'éditeur de plus en plus. Et du coup, l'éditeur apparaît comme le premier responsable et l'auteur n'est que son complice. C'est évidemment aussi un moyen pour pouvoir contrôler mieux les discours, les discours publiés, enfin les textes publiés, parce que ça permet aussi de poursuivre un éditeur qui aurait réédité un écrit d'un auteur décédé et qu'on ne pourrait pas poursuivre. Et ça, ça concerne surtout au début du XIXe siècle, la réédition des œuvres du XVIIIe siècle, des œuvres des philosophes, y compris celles qui étaient interdites. Bon, Rousseau, Voltaire commencent à être autorisés, mais pas tout. Et puis surtout le marquis de Sade, par exemple. Voilà, donc ça permet de poursuivre. Alors, quid de la dimension subjective de la responsabilité, eh bien, elle peut aggraver ou atténuer la responsabilité objective, hein, comme on l'a dit. Et donc, il faut démontrer que les responsables et leurs complices ont agi avec l'intention de nuire. C'est ce qui va permettre, dans la grande loi libérale de 1881, qui est la loi républicaine avec la naissance de la Troisième République, et qui est celle qui s'applique encore aujourd'hui, d'exempter l'imprimeur lui-même d'être responsable, sauf si on peut démontrer qu'il a agi en connaissance de cause. Parce que l'imprimeur faisait partie aussi des complices possibles, donc qui étaient toujours passibles d'être punis. Et d'ailleurs, on voit une différence entre le premier 19e siècle, où l'imprimeur est souvent puni, et sous la Troisième République, où il n'est plus jamais, quasiment plus jamais puni, ni même poursuivi. Alors, ce qui est intéressant dans cette question de la dimension subjective de la responsabilité et de la proportionnalité de cette responsabilité, c'est que si on regarde les peines, la pratique, en fait, les peines, l'auteur est toujours plus puni que l'éditeur, alors que l'éditeur est le premier responsable et que l'auteur n'est que son complice. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, de fait, que, de point de vue des représentations, la croyance est dans la responsabilité première, en fait, de l'auteur par rapport à ses écrits. Voilà. Alors, c'est important de souligner que tout ça est vrai pour le livre, mais pas pour la presse. Parce que la presse, qui était considérée comme plus dangereuse, parce que plus, on va y venir, mais plus un écrit est diffusé, plus il est considéré comme susceptible de nuire. Hein. Et donc, le gérant est responsable avant les auteurs, et en fait, il est condamné à peu près aux mêmes peines, d'après ce que j'ai trouvé comme données. Parce que la presse est conçue comme une entreprise. Donc le gérant a un rôle, une sorte de responsabilité supérieure, en fait, à l'éditeur. Et souvent, d'ailleurs, dans la presse au XIXe siècle, les auteurs d'articles étaient anonymes. Hein. C'est une manière d'échapper aux poursuites, à la censure. Et la responsabilisation va conduire à exiger que les noms figurent. Voilà, alors vous voyez ce jeu entre responsabilité subjective et objective qui, donc, pour moi, a été une des grilles d'étude de ces procès. Et pas seulement des procès, d'ailleurs, de manière plus générale, aux théories, parce que je n'ai pas travaillé que sur les procès, j'ai travaillé aussi sur un matériau beaucoup plus large, la réception des écrits dans la presse, les livres de l'époque sur la littérature, donc tout ce qui pouvait constituer des sources sur la croyance de l'époque et la manière dont différents groupes argumentaient ou individus autour de cette question de la responsabilité de l'écrivain. Alors, la responsabilité de l'écrivain, par rapport à quoi elle se définit? Tout d'abord, elle se définit bien sûr à partir du contenu des écrits qui font l'objet des poursuites. Hein. C'est-à-dire, en quoi est-ce qu'ils ont offensé, par exemple, la morale publique? Ou en quoi est-ce qu'ils ont offensé les mœurs? Ou en quoi est-ce qu'ils ont transgressé les valeurs fondamentales de la société? En quoi est-ce qu'ils ont attaqué le régime, quand le régime se protège? C'est le cas de la monarchie, ce n'est pas le cas de la République, mais elle trouve d'autres moyens de se protéger, on y viendra. Donc là, c'est des questions de contenu. Mais le contenu n'est pas tout hein, dans les procès. C'est ça qui m'a intéressée. La responsabilité se définit aussi par rapport à la forme et aussi à la matérialité du support. Donc la forme de l'écrit et à la matérialité du support qui sont à la fois des indicateurs de la responsabilité objective et de la responsabilité subjective. Du point de vue de la forme de l'écrit, le genre, par exemple, suppose des habitudes de lecture ou un mode de réception particulier. Par exemple, au début du XIXe siècle, on considère que la chanson est un genre léger, contrairement à la poésie, et donc on lui accorde quelques écarts, parce qu'il est considéré comme léger. À l'inverse, par son histoire, le pamphlet est un genre qui est suspecté immédiatement d'une intention politique, d'une visée séditieuse. les procédés formels eux-mêmes peuvent être source à la fois de, d'imputation de responsabilité et aussi de confusion. Ça a été le cas dans le procès de Flaubert pour Madame Bovary, avec le fait que l'usage du discours indirect libre, qui n'était pas courant au 19e, enfin qui était même, Flaubert est le premier à en faire un usage assez systématique, du coup les habitudes de lecture n'étaient pas là, n'étaient pas présentes, enfin n'existaient pas. Et donc le procureur impérial, Pinard, a cru, enfin, parmi les passages qui étaient reprochés à Flaubert, il y avait par exemple cette scène où Emma Bovary revient de sa première rencontre avec son amant et elle se regarde dans le miroir et elle se trouve belle. Et donc cette scène-là, pour le procureur, c'était la preuve que Flaubert avait magnifié, glorifié l'adultère. Et en fait, le défenseur de Flaubert a dû expliquer au procureur que ce n'était pas le point de vue de Flaubert, que c'était le point de vue d'Emma qui se regardait dans la glace. Mais simplement, comme il n'avait pas mis de guillemets ni utilisé le discours indirect, le procureur avait confondu les points de vue et imputé le point de vue du personnage au point de vue de l'auteur du livre. Et c'est ce qui est très intéressant, c'est que cette distinction même qui aujourd'hui, pour vous, étudiants de lettres, va de soi entre l'auteur, le narrateur et ses personnages, elle n'existait pas vraiment à l'époque. Elle s'établit à travers justement des débats comme ceux-là, notamment autour du procès de Madame Bovary. Et puis le style et le vocabulaire eux-mêmes étaient centraux dans les attaques contre les œuvres réalistes de Flaubert jusqu'aux naturalistes. En fait, on leur reprochait la crudité de leur description, mais le réalisme lui-même, la notion même de réalisme, c'était déjà une sorte de stigmate. C'est-à-dire que dans la presse, quand on parlait des critiques qui avaient défendu une sorte d'esthétique classique, quand ils mentionnaient, quand ils parlaient de réalisme, c'était déjà un stigmate. Et donc, ça a été utilisé dans les procès. Oui, le rapport entre la critique et les procès est aussi très intéressant, parce qu'aujourd'hui, on pense à critique que c'est quelque chose qui soutient la littérature, qui l'accompagne, qui favorise sa diffusion, sa compréhension. Mais au XIXe siècle, beaucoup de critiques se comportaient comme des censeurs, jugeaient la littérature de manière très impérieuse, dénonçaient des écarts, et souvent, ils servaient de prétexte en fait, pour engager des poursuites contre les écrivains. Alors parfois, ils étaient même commandés, hein, les critiques qui attaquaient certaines œuvres. Donc là, on a parlé de la forme, et il y a aussi la question de la matérialité de la publication. Hein. Par exemple, le support. Est-ce que c'est le livre ou est-ce que c'est dans les journaux? Je l'ai déjà dit, hein, on est à l'époque où a fleuri le roman feuilleton. Évidemment, la question de la publication dans la presse, qui assure une plus large diffusion, était un enjeu et pouvait servir d'argument, une circonstance aggravante pour l'écrivain, le fait d'avoir diffusé largement ses écrits. La taille du volume comptait aussi. Parce que si c'est un gros volume, on se dit que ça ne va pas tomber entre toutes les mains. Hein. Les gens industrieux, le peuple, les gens qui viennent d'être alphabétisés ne vont pas forcément se plonger dans un gros volume qui paraît un volume d'érudition. C'est aussi un signe de l'intention, du sérieux de l'écrivain de faire un gros volume. Tandis qu'un volume court, comme le pamphlet justement qui se définissait à l'époque, contrairement au pamphlet de la fin du 19e, mais la définition même du pamphlet au début du 19e, c'est un texte court. Et donc, d'emblée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il était soupçonné, suspecté d'une intention, d'une visée séditieuse. Voilà, parce qu'il pouvait toucher un public plus large. Alors, inversement, ces arguments servent aux écrivains en défense. C'est-à-dire, quand ils ont fait un gros livre, ils vont dire, ah ben, c'est un gros livre, vous voyez, ça ne va pas toucher grand monde. Il coûte cher, le prix aussi, c'était très important. Il y avait en fait un classement, un clivage très important. Aujourd'hui, on est sous le régime du prix unique du livre, mais à l'époque, il y avait vraiment un classement très important, selon le prix, entre les volumes chers destinés aux élites, et puis les volumes populaires, l'édition populaire qui se développe très fortement. Alors, l'imputation de la responsabilité, évidemment, suppose aussi une théorie sur les effets supposés de l'œuvre. Et comme je vous l'ai dit, elle repose sur une croyance, parce qu'après tout, on pourrait se dire, mais quel effet peut avoir la littérature ? Donc là, ça repose sur une croyance partagée dans les effets nocifs des mauvais livres et donc dans le pourvoir performatif des mots. L'idée que les mots ont des effets sur les actes. Alors, il y a une théorie qu'on peut faire remonter à Platon, de l'imitation. Il y a aussi une autre théorie qui est celle d'Aristote, de la catharsis. On pourra y revenir dans la discussion, je ne vais pas développer, mais qui est justement une théorie un peu différente. En tout cas, cette croyance est une croyance spiritualiste développée notamment par l'Église avec l'essor de l'imprimé au XVIIe siècle. Et au XVIIIe siècle, elle se cristallise. Alors, il y avait une des métaphores très courantes pour penser, pour décrire les effets de la lecture, c'était le poison. C'est des lectures empoisonnées, donc le venin, le poison. Et puis, l'autre terme qui commence à se diffuser très largement au XVIIIe, c'est la notion de contagion, et donc la notion de contagion morale. Alors, vous voyez, contagion, ça vient de la médecine. À un moment où les médecins, il y avait une division du travail entre les médecins et le clergé, entre le corps et l'esprit, mais à partir du XVIIIe, les médecins qui de plus en plus veulent affirmer leur pouvoir, essayent d'empiéter sur le domaine du clergé, donc sur le domaine de l'esprit, et c'est à travers cette notion de contagion morale qu'ils vont arriver à faire reconnaître par l'État leur capacité à contrôler, à aider à contrôler des populations, à endiguer des émeutes potentielles. Dans le cadre de cette lutte entre des professions pour occuper un domaine de compétences, ce que le sociologue américain Andrew Abbott appelle « jurisdiction », un domaine de compétences reconnu par l'État. Toutes les professions se sont institutionnalisées comme ça en définissant leur domaine de compétences et cette division du travail d'expertise va s'approfondir tout au long du XIXe siècle. En tout cas, cette croyance dans le pouvoir des mots s'est évidemment accrue avec la Révolution française. Parce que l'idée que les livres ont fait la Révolution était partagée par les révolutionnaires et les contre-révolutionnaires. C'est une idée qui, encore aujourd'hui, fait débat chez les meilleurs spécialistes de la Révolution, le débat Chartier-Darnton, par exemple, parce que il y a encore cette croyance forte dans l'idée que les livres font la Révolution. Alors, la théorie de Chartier, c'est de dire que c'est plus compliqué que ça. On ne peut pas dire que les idées ont un effet de manière directe. Il y a des formes d'appropriation, d'instrumentalisation, de réception des idées qu'il faut étudier pour comprendre par quel mécanisme on peut voir ces circulations, en fait, et ces appropriations. Elles conduisent aussi, en fait, les révolutionnaires à revendiquer une paternité chez Rousseau, Voltaire, mais sans que les événements révolutionnaires eux-mêmes soient inscrits dans l'œuvre de Rousseau et de Voltaire. Voilà, donc ça, c'est une question très intéressante qui aussi m'a travaillé tout au long de ce livre et qui aussi, on y reviendra, est importante par rapport à la période de l'occupation et de manière plus générale, bien sûr. Alors, la liberté d'expression en France a été proclamée par la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Mais, comme vous le savez peut-être, elle a eu une vie très éphémère et ce n'est que sous le régime parlementaire de la Restauration, de manière qui peut paraître un peu paradoxale, qu'elle est instaurée de manière pérenne avec l'application du principe de liberté d'expression et de discussion philosophique de la charte de 1914 par les lois qu'on a appelées les lois de Serres de 1819. Donc, qui pose le cadre législatif qui permet l'application du principe de la charte de la liberté d'expression et de discussion philosophique. Liberté de discussion philosophique, c'est la liberté de discussion entre les religions. Voilà. Et ce qui est important de comprendre, c'est que cette libéralisation, en fait, qu'on peut voir comme une libéralisation politique, puisque c'est aussi le droit d'exprimer des opinions, est très liée à la liberté de commerce qui est revendiquée par les éditeurs au moment où l'édition est en pleine expansion. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai choisi ce moment de la Restauration comme le premier des quatre moments clés qui sont étudiés dans ce livre. Donc des moments qui correspondent à la fois à des changements de régime et de législation sur la presse, et puis aussi à une évolution de la morale publique. Morale publique au sens large, pas au sens restreint du début 19e, qu'il identifiait avec la morale religieuse, mais pas seulement, en fait, tout ce qui était sacré dans la société, mais morale publique au sens qu'on peut généraliser cette notion pour penser cette évolution de la morale publique d'une période à l'autre. Et de manière très intéressante, les procès littéraires donnent une indication de cette évolution de la morale publique. Hein, c'est ce que j'essayais de montrer dans le livre, même si les arguments semblent toujours les mêmes accusations, etc. Mais on voit que ce n'est pas tout à fait ça. Et donc, la Restauration, c'est le moment en fait, de mise en place du régime de liberté des presses et aussi de lutte pour son extension ou sa restriction. Hein, c'est un moment de tâtonnement où on teste les limites de la liberté de presse. Et puis, il y a tout le temps des lois qui viennent restreindre une liberté acquise. Enfin, il y a des luttes constantes qui se manifestent aussi dans l'évolution du droit pendant cette période. La deuxième période que j'ai choisie, c'est celle du Second Empire, celle des procès célèbres de Flaubert et de Baudelaire, qui est aussi un moment de restriction de la liberté de presse et de resserrement de la morale publique autour des valeurs bourgeoises de la famille et de la propriété. Le procès de Flaubert pour Madame Bovary illustre bien en fait, le fait que ces valeurs ont été bafouées. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que le régime le percevait. Voilà. La Troisième République, qui est ma troisième période, c'est un moment de nationalisation de la morale publique. Au moment où la religion se privatise, elle n'est plus protégée, en fait par le droit. Elle ne fait plus partie des domaines que le droit protège. On a le droit de la discuter, de l'attaquer. La morale, en même temps, se nationalise et ce qui devient sacré, c'est la nation. Et c'est une période aussi de durcissement de l'offense aux mœurs parce que la République, justement laïque, veut constituer une sorte de morale républicaine laïque et aussi montrer sa respectabilité par rapport à d'autres régimes. Et puis le dernier moment que j'ai traité dans ce livre, c'est la libération. Donc un moment où culmine en fait cette définition nationale de la responsabilité puisque les écrivains sont poursuivis pour le crime de trahison. D'intelligence avec l'ennemi. L'autre crime, c'était où les peines étaient moindres, c'était l'indignité nationale. Donc, vous voyez, ça porte ça dans le nom. Mais c'est aussi le moment où la responsabilité de l'écrivain se dégage du cadre national avec la théorie sartrienne de la littérature engagée. Donc, je vais présenter ces quatre périodes de manière un peu plus détaillée pour vous donner une vision globale de ce que j'ai essayé de faire dans ce livre. Alors tout d'abord, la Restauration, comme je l'ai dit, l'adoption d'un cadre permettant la liberté de presse d'être déclarée suppose de définir des restrictions à cette liberté. Qu'est-ce qui est restreint, qu'est-ce qui est soustrait en fait à la liberté d'expression ? Ce sont les principes sacrés, ce qui ne peut être discuté, ce qui ne peut être soumis en fait à la libre discussion. Alors c'est quoi à cette époque ? C'est tout d'abord le régime monarchique lui-même, on n'a pas le droit de le remettre en cause. Principe dynastique. Et puis l'autre chose, c'est le principe de l'immortalité de l'âme. Alors c'est intéressant, on a une liberté de discussion philosophique, donc une liberté religieuse, mais le matérialisme comme doctrine reste un crime à cette époque. Et ça, c'est vrai jusqu'à la loi républicaine de 1881. Alors, à part ces principes sacrés, il y a évidemment la question de l'offense aux mœurs, mais elle est moindre encore à l'époque. C'est vraiment, on voit que la morale religieuse et la morale... la question de la défense du régime prime sur cette question de l'offense aux mœurs. Et on verra d'ailleurs que l'offense aux mœurs sert souvent, finalement, à des poursuites politiques. C'est souvent un prétexte quand on ne peut pas qualifier le crime comme politique, parce que, justement, les lois sur la liberté d'expression ne le permettent pas. Mais, en tout cas, c'est encore mal différencié, justement, des crimes politiques et religieux. Alors, comme je l'ai dit, la Restauration, c'est une période d'apprentissage de la liberté d'expression et d'affrontement entre les libéraux, qu'on appelle les libéraux à l'époque, donc ceux qui défendent justement une libéralisation politique, aussi commerciale, mais surtout politique à l'époque, et les ultra-royalistes, qui eux défendent au contraire, qui sont totalement opposés à ces lois de Serres de 1819, et qui luttent pour la restriction de cette liberté, tandis que les premiers, évidemment, luttent pour son extension. Et à cette époque, le tribunal, c'est une vraie arène politique. il y a c'est un lieu, c'est public, et donc c'est un lieu où on peut débattre et lutter, et s'affronter sur ce terrain. Et il y a une sorte d'alliance entre les écrivains libéraux et leurs avocats, qui correspond au combat des capacités. À cette époque, on appelait les capacités, donc toutes les professions comme le droit, la médecine, etc., pour l'abaissement du sens, parce que pour le droit de vote à l'époque, comme vous savez peut-être, dans ce régime de monarchie censitaire, il fallait payer un impôt très élevé que les capacités ne pouvaient pas payer. Donc ils étaient exclus du droit de vote. Et c'était seulement donc les aristocrates et la très grande bourgeoisie qui pouvaient payer. Et les capacités luttaient à l'époque pour justement abaisser le sens et pouvoir participer à la vie politique. Le symbole de cette lutte des capacités contre l'aristocratie et le clergé, c'est la fameuse parabole de Saint-Simon dans L'Organisateur, la parabole des abeilles, qui l'a conduit d'ailleurs en cour d'assises, il a été acquitté, c'est dans son livre L'Organisateur, je vous la rappelle, pour ceux qui ne la connaissent pas, vous l'entendrez comme ça. Si la France perdait ses savants, ses ingénieurs, ses avocats, ses médecins, ses banquiers, ses artisans, ses commerçants, ses ouvriers, il lui faudrait au moins une génération pour réparer les malheurs. Mais si elle perdait sa noblesse, son clergé, ses ministères et ses préfets, aucun mal politique ne s'en suivrait. Donc c'est voilà, de dire que c'est ce qu'on appelait ensuite la doctrine saint-simonienne, hein, c'est de dire que la société repose sur les gens productifs, hein, et industrieux, et que finalement l'aristocratie et le clergé sont des parasites. Alors les écrivains libéraux donc revendiquent le droit de critiquer les institutions dans un régime parlementaire. Ils emploient des procédés pour contourner la censure, parce que la censure sévissait encore. Alors ces procédés sont des procédés tout à fait littéraires. Le déplacement dans le temps ou dans l'espace, par exemple, on va parler d'un royaume du passé ou de l'Angleterre pour parler de la France, et tout le monde comprendra qu'on parle de la France, mais ça permet d'échapper à la censure parce qu'il fallait que l'offense soit directe pour pouvoir être poursuivi. Et d'ailleurs, on a retrouvé les fiches d'un des censeurs qui était un abbé, l'abbé Mutin, qui donc lisait tous ces ouvrages et qui montrait en quoi ils étaient dangereux, séditieux, etc., mais qu'on ne pouvait pas les poursuivre parce que selon le régime de liberté de presse, on ne pouvait pas les poursuivre. Donc c'est très drôle, on a une sorte de critique comme ça par un censeur. Voilà. Alors, déplacement dans le temps et dans l'espace. La fictionnalisation, vous savez, c'est une époque où le roman n'est pas encore très développé. En France, il va prendre son essor sous la monarchie de Juillet. Bon, il y a Stendhal, mais c'est vraiment les tout débuts. Et la fictionalisation, en fait, c'est avant tout un moyen de contourner la censure. Hein, c'est de même que l'allégorie. Par exemple, la chanson de Béranger qui évoque un royaume régi par des nains appelés les Barbons, dans lequel, évidemment, tout le monde reconnaît les Bourbons. Donc la dynastie monarchique. Et puis, d'autres stratégies, c'était par exemple d'attaquer, plutôt que, on n'a pas le droit d'attaquer la religion, on n'a pas le droit d'attaquer le régime monarchique, alors on va attaquer les prêtres, le clergé lui-même, on va attaquer l'aristocratie. Donc c'est une manière détournée d'attaquer en fait les piliers de l'ordre social. Alors bien que l'offense devait être explicite pour pouvoir être punie, nombre de ces écrivains ont été poursuivis, et ce fut notamment le cas du pamphlétaire Paul-Louis Courier et du chansonnier Béranger. Alors c'est intéressant, ce sont deux genres assez mineurs, vous voyez le pamphlet et la chanson, qui sont à la marge de la littérature, et ce sont ces deux auteurs qui vont les littérariser et leur obtenir une reconnaissance littéraire, et notamment leur procès a joué un rôle dans cette littérarisation. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que ces procès sont parmi les premiers procès publics après l'adoption des lois de Serres de 1819. Et en fait, ils attirent une foule considérable. Béranger met 40 minutes jusqu'à arriver à la banc des accusés, tellement il y avait de monde, des gens rentrés par la fenêtre, etc. Donc, voilà. Donc, c'était vraiment des événements, hein, des événements publics. Alors, Courier, qui est-il ? C'est un officier de carrière et un helléniste passionné, mais qui n'est pas parvenu à succéder à son beau-père à l'Académie des inscriptions et des belles-lettres, malgré la reconnaissance qu'il avait acquise. Et en fait, il se reconvertit dans le pamphlet, d'abord pour dénoncer la priorité que l'Académie accorde au titre de noblesse et au détriment de la véritable érudition. Donc là, on voit cette lutte des capacités contre l'aristocratie. Il est surnommé à l'époque le Rabelais de la politique. Comme je disais, il va littérariser ce genre qu'il conçoit lui, comme un moyen d'éclairer les gens industrieux qui n'ont pas le loisir de se consacrer à la lecture de longs volumes. Donc pour Courrier, le choix du pamphlet, c'est un choix démocratique de pouvoir parler à un public plus large, un public populaire qui vient d'être alphabétisé, mais qui n'a pas le temps, le loisir de lire des longs volumes. Alors cette vision doit être mise en regard, évidemment, de sa dénonciation de l'oisiveté courtisane au profit d'un éloge du travail et de la productivité qui fait écho à la parabole des abeilles de Saint-Simon. Il commence à publier une série de lettres ouvertes. Il y en a deux sur la liberté de presse dans un journal qui s'appelle Le Censeur européen, qui est un des bastions de la presse libérale, qui va asseoir sa réputation auprès du public. Et donc, il est déjà largement reconnu comme un penseur libéral quand il est poursuivi en 1821, au lendemain de l'assassinat du duc de Berry, qui était l'héritier du trône. Assassinat que les ultras imputaient en fait à la presse anti-légitimiste, parce que Louvel, l'assassin, était un ouvrier qui sait lire, bien que lui-même n'ait revendiqué aucune filiation littéraire ou intellectuelle. Donc on impute le meurtre de l'héritier du trône à la presse, en fait, à la liberté de presse. Donc c'était un contexte assez tendu et... dans son simple discours de Paul-Louis Vigneron de la Chavonnière aux membres du conseil de la commune de Véretz à l'occasion de la souscription pour l'acquisition de Chambord, c'est ce simple discours qui va lui valoir des poursuites, Paul-Louis Courrier dénonce en fait la souscription que le ministère de l'Intérieur a lancée pour faire acheter le château de Chambord par le peuple et l'offrir au duc de Bordeaux. Le duc de Bordeaux, c'est l'héritier du trône qui est né miraculeusement 7 mois après l'assassinat du duc de Berry. On ne sait pas très bien comment il a été fabriqué, mais en tout cas, il était présenté comme l'héritier légitime pour permettre la perpétuation de la dynastie. Et donc, cette souscription est lancée pour lui offrir le château de Chambord. Alors, dans ce pamphlet, Courrier, pour contourner l'interdiction d'enfoncer la famille royale, recourt à la stratégie courante à l'époque de s'en prendre à la noblesse de cour, qui, dit-il, seule profitera de l'achat du château. Et il en profite pour faire une digression sur l'immoralité des mœurs galantes de l'aristocratie qui ne s'enrichit que par les femmes. Et il décrit la débauche des courtisans. Il a pris garde de ne citer personne pour éviter toute poursuite en diffamation, mais finalement, cette digression fait partie des 4 passages incriminés pour atteinte à la morale publique. Alors, vous voyez, c'est paradoxal, il dénonce des mœurs galantes et il est poursuivi pour atteinte à la morale publique et offense aux mœurs. Et donc, lors de l'interrogatoire, le président de la Cour lui demande pourquoi il a pris pour sujet l'hommage des Français au duc de Bordeaux et pourquoi il a composé son texte avec tant d'acrimonie. Ne croit-il pas avoir attenté à la morale publique en cherchant à couvrir de mépris toute une classe d'individus? Il dit que les mensonges qu'il profère sur les mœurs parsées de l'aristocratie lui servent à exciter la haine contre les descendants, je cite, et à saper donc les fondements de l'ordre monarchique. Vous voyez donc comment, à travers quelque chose qui est quand même très allusif, dénonciation des mœurs galantes de l'aristocratie, il y a tout un enjeu politique qui se joue. On lisait beaucoup entre les lignes à l'époque. Et en fait, son avocat essaie de le défendre en contestant sur le fond la qualification de délit pour ce qu'il dit n'est qu'une opinion. C'est son opinion. Il a le droit de penser que l'aristocratie a des mœurs répréhensibles. Et il dit que lui, son client, est un moraliste sévère. Et donc, lorsqu'il dénonce, on ne peut pas l'accuser d'offense à la morale publique. Pourtant, malgré... Et puis, il s'étonne, il lance cette boutade. Il s'étonne que la cour d'assises est devenue une succursale de l'Académie française. Parce qu'il y a plein d'écrivains qui sont jugés. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que la condamnation même, la poursuite même, va devenir un titre de gloire pour les écrivains. Ça veut dire qu'ils ont pris des risques, qu'ils ont été courageux, qu'ils ont été prêts à braver la censure pour proclamer des vérités qui étaient interdites. Alors, malgré ce plaidoyer, Courrier est condamné à 2 mois de prison et 200 francs d'amende. Bon, la prison, ce n'était pas ce que c'est aujourd'hui. Hein. Ils avaient une chambre, ils pouvaient recevoir des visites, ils ne pouvaient pas sortir. Hein, mais voilà. Mais quand même, donc, il est. Et alors, à la veille de son procès, justement, il évoque dans une lettre à sa femme le succès fou que rencontre son simple discours auprès du public, parce que ça va être une des caractéristiques, c'est que les procès vont apporter du succès, en fait, aux œuvres poursuivies. Et il dit à sa femme, plus on me persécutera, plus j'aurai l'estime publique. Et de fait, les procès vont, comme je disais, devenir un titre de gloire pour ces écrivains, preuve de leur courage à braver les institutions pour faire triompher la vérité, ce que Zola fera au moment de l'affaire Dreyfus, de manière, il a appelé de ses voeux son procès, parce que pour lui, c'était le moyen de faire triompher la vérité sur l'affaire. Tantôt, ce sera une marque de leur originalité créatrice qui, justement, apparaît comme subversive, comme dans le cas de Baudelaire, auquel Victor Hugo écrira que sa condamnation est la meilleure décoration que le régime du Second Empire pouvait lui accorder. Et d'ailleurs, dans l'article Jean de Lettres de l'Encyclopédie, Voltaire évoque cette question de la persécution, enfin, que les vrais savants et écrivains et hommes de lettres ont toujours été persécutés par le pouvoir. Et que c'est parce qu'ils ont toujours clamé la vérité. Alors Béranger, lui, appartient également à l'opposition libérale. Il a fait différents métiers, notamment il était typographe. Vous voyez que tous deux, ils viennent pas d'un milieu aristocratique. Hein, il y a aussi des conditions sociales qui expliquent leur trajectoire. Son goût pour la chanson naît de sa fréquentation des milieux révolutionnaires. Il est protégé de Lucien Bonaparte, qui est le frère du premier consul, selon la logique clientéliste qui prévalait encore à cette époque. C'était la logique d'Ancien Régime. Pour faire une carrière d'écrivain, il fallait avoir un protecteur. Et puis, il devient chansonnier tout en gagnant sa vie grâce à un poste administratif dans l'université. Et il est connu comme bonapartiste, mais Louis XVIII aime bien les chansons, qui étaient un genre d'Ancien Régime. Donc, il y a une certaine tolérance à son égard. Et en fait, c'est quand Béranger décide d'imprimer ses chansons que des poursuites sont engagées. Poursuites pour offense à la morale publique et religieuse, outrage aux mœurs et offense à la personne du roi. Il n'y a que finalement l'outrage aux mœurs et l'outrage à la morale publique, la morale religieuse et l'outrage aux mœurs qui seront retenus. Il y avait même un autre chef d'accusation qui n'existait même pas, mais voilà. Alors, dans le procès, la défense va. L'avocat de Béranger invoque la légèreté du genre de la chanson, tandis que le procureur explique que le fait d'avoir imprimé les chansons leur confère un autre statut, plus sérieux, leur assure une plus large diffusion dans le temps, dans l'espace. Et en fait, il les qualifie d'odes. Donc c'est une manière de les rendre plus sérieuses et donc ayant un impact plus important. Il les qualifie aussi de libelles rimées. Donc c'est une manière de les tirer vers le pamphlet, vers le genre pamphlétaire. Donc vous voyez comment les jeux de classification de genre sont importants dans ces débats. Donc comme je disais, seule l'offense à la morale publique et religieuse est finalement retenue. Oui, l'offense aux mœurs s'est écartée. Et elle vise notamment la critique du clergé qui s'articule chez Béranger à la critique sociale. Hein, on dit qu'en gros que l'Église vit aux dépens du peuple. Et il est condamné à 3 mois de prison et à une amende. Et donc à la prison de Sainte-Pélagie, en fait, va se nouer tout un réseau d'amitié. Il va rencontrer Courrier parce qu'il lui succède justement dans la prison. Il se trouve en compagnie de Cauchois le maire. Et en fait, les témoignages de sympathie et le bruit qu'a fait sa condamnation lui donnent la mesure de l'influence que ses chansons pouvaient exercer. Donc son procès lui donne la mesure de son influence. C'est un point important. D'ailleurs, il préfère après coup le réquisitoire du procureur au plaidoyer de son avocat. Il en prendra un autre parce qu'il aura quelques autres procès. Parce que finalement, c'est le procureur qui lui reconnaissait un vrai statut de poète. Alors que la défense de l'avocat disant que la chanson, c'est un genre léger, finalement, ça ne lui a pas beaucoup plu. Voilà. Et en 1825, Béranger prend part à l'agitation anti-religieuse avec notamment sa chanson sur le sacre de Charles le Simple, qui évidemment tourne en dérision le sacre de Charles X et le moment de réconciliation entre le trône et de resserrement du lien entre le trône et l'autel. Et donc c'est publié en 1828 dans son 4e recueil de chansons inédites, qui cette fois va lui valoir 9 mois d'emprisonnement et 10 000 francs d'amende pour récidive. Et là, il acquiert vraiment un statut, une large reconnaissance. Victor Hugo lui-même, qui à l'époque, comme vous le savez sans doute, n'est pas du tout libéral, hein, et c'est encore un royaliste, mais c'est le moment où il commence à basculer, va venir lui rendre visite en prison, ce qui est un moment de véritable reconnaissance, parce qu'il ne fréquentait pas ces milieux des libéraux. Et c'est là que Béranger va acquérir en fait, le statut de poète national qu'il a conservé jusque sous le Second Empire. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que contre l'éthos courtisan des hommes de lettres, Béranger et Courier et les écrivains libéraux prônent la fierté et l'intégrité de l'écrivain qui ne doit de compte qu'à son public et qui prend des risques pour dire la vérité. Donc, ils rejettent ce modèle de l'écrivain amuseur, du fou du roi, de celui qui, voilà, qui amuse la galerie. Pour eux, l'écrivain a une mission qui est d'éclairer l'opinion et ne doit rendre des comptes qu'à son public. Le modèle de Courier, c'est Swift notamment. Et ce qu'on peut dire, c'est que ces écrivains libéraux ont contribué finalement à l'avènement de la révolution de 1830, qui va libéraliser à nouveau la presse. Alors je passe au Second Empire. Second Empire, c'est un moment de... Alors, ce n'est pas qu'il n'y ait pas eu des choses importantes sous la monarchie de Juillet, mais il n'y a pas de procès aussi retentissant. Et c'est le moment de l'essor du roman, et notamment du roman feuilleton. Et il y a toute une querelle autour du roman feuilleton et de ses effets, parce que, évidemment, on a un élargissement du lectorat, et notamment du lectorat féminin, et ça va devenir un enjeu, la question de... du lectorat populaire, donc ça va devenir un enjeu pour définir la responsabilité objective de l'écrivain. Et tout ça se répercute dans le procès de Flaubert. Donc, Second Empire, on a un durcissement de la législation sur la liberté de presse qui intervient dès avant le coup d'État, donc juste avant le Second Empire. Et puis, c'est un moment aussi où on impute la révolution de 1848 au théâtre et aussi au roman feuilleton. Donc on revient sur ce schème des causes intellectuelles des émeutes révolutionnaires. Et en fait, après le coup d'État, il y a un rétablissement de la censure de la presse. Et le régime considère que la littérature doit être réduite à l'art. Elle ne doit pas faire de politique. En 1857, il y a trois procès célèbres, ceux de Flaubert, de Baudelaire et d'Eugène Sue, qui vient de décéder. Alors, ce qui est très paradoxal, c'est que ce soit les deux tenants de l'art pour l'art, Flaubert et Baudelaire, qui soient traînés devant les tribunaux et que tous les deux soient accusés du réalisme qu'ils détestaient. Alors, procès de Flaubert, je l'ai déjà dit, il y a un conflit d'interprétation entre le procureur Pinard et le défenseur de Flaubert, son avocat, qui est Maître Senard. Est-ce que Madame Bovary est un roman qui glorifie l'adultère ? Ce n'est pas le choix du thème en soi qui explique les poursuites, parce que beaucoup d'autres romans et pièces de théâtre en traitaient à l'époque, parce qu'il y a un resserrement de la morale bourgeoise se resserre autour du couple et donc du rapport conjugal. Et donc la question de l'adultère elle devient centrale, ce qui ne posait pas du tout problème pour l'aristocratie. Donc centralité de ce thème, mais alors, comme tout le monde en traite, qu'est-ce qui fait que celui-là soit poursuivi parmi d'autres ? Alors je pense, je l'ai dit déjà, que c'est surtout la forme qui a joué dans les poursuites. J'ai évoqué déjà la technique novatrice du discours indirect libre, qui fait scandale parce qu'il y a une ambiguïté de savoir qui parle. Et il y a aussi le choix de Flaubert d'adopter une posture de narrateur impersonnel, qui ne juge pas son héroïne. Alors vous savez que Balzac intervenait dans ses romans, il y avait des moments où il s'arrête, il parle à son lecteur. Flaubert refuse cette posture et décide d'adopter la posture d'un narrateur qui est un peu l'équivalent d'un savant qui regarderait ce monde un peu de loin, avec une certaine distance. Et il utilise des techniques de distanciation, parmi lesquelles l'ironie. Mais en tout cas, il y a cette distance qui est là, et avec une sorte de pseudo-objectivité qui est empruntée au regard scientifique. Il il était lui-même fils de médecin, il avait fait des tournées avec son père. Donc il avait ce regard clinique sur le monde, et même le réalisme chez lui, c'est un regard clinique, parce qu'il y a des utilisations de techniques descriptives réalistes dans le roman. Et donc c'est aussi la forme justement réaliste qui lui est reprochée, ces descriptions très détaillées, et la couleur lascive, ça revient tout le temps dans le réquisitoire, la couleur lascive du roman. Alors Flaubert est acquitté quand Baudelaire est condamné. Et pourtant, ça paraît surprenant, parce que pour Baudelaire, il s'agissait de poèmes, et quand Flaubert entend que Baudelaire est poursuivi pour les fleurs du mal, il est stupéfait, il dit qu'il ne pouvait même pas imaginer que la poésie puisse encore être poursuivie en justice. Alors, comment expliquer cette différence de jugement ? On dit que Flaubert a su faire jouer un réseau de relations, tout un réseau de relations, tandis que Baudelaire, c'est vrai, si on regarde sa défense, il ne s'est défendu que sur l'argument de l'art pour l'art. Hein. Il a composé un dossier pour son avocat que vous trouverez dans l'édition de la Pléiade des œuvres de Baudelaire. Qui était inacceptable, en fait, sous ce régime d'ordre moral, parce que son argument, c'est de dire que l'art ne doit pas être subordonné à la morale. C'est l'argument de l'art pour l'art. Il a ses propres critères, ses propres règles. Et donc, ça, c'était évidemment inacceptable pour le régime. Mais je pense que le capital social de Flaubert ne suffit pas à expliquer son acquittement. Si vous lisez le jugement qui est adjoint à toutes les éditions de Madame Bovary, vous verrez que dans le jugement, on reconnaît son intention pure, mais on le blâme. Hein. Il a un blâme pour avoir commis une erreur dans le procédé qu'il a utilisé. Et donc, on le blâme pour le réalisme, en fait. Donc, mon hypothèse, c'est que l'acquittement de Flaubert tient aussi et surtout à la lecture que son avocat a proposée du roman. En fait, l'avocat de Flaubert, Maître Senard, a fait de Madame Bovary un roman à thèse sur les effets de l'éducation et des mauvaises lectures sur une jeune fille d'origine modeste à qui ces lectures ont donné une ambition au-dessus de sa condition et l'ont conduite à l'adultère et puis à la ruine et à la destruction de sa famille et puis au suicide. Oui, parce que la question du suicide, elle se posait, parce qu'on peut dire que, bon, il ne juge pas son personnage, mais il l'a fait quand même mourir dans des souffrances atroces. Ça a été un argument invoqué par la défense. Mais le procureur considérait que ce n'était pas un châtiment suffisant, au sens où c'était une mort volontaire, hein, le suicide qui était d'ailleurs évidemment interdit. Donc ce n'est pas une punition, en fait. Voilà, donc... Vous voyez que l'accusation et la défense, finalement, s'accordent sur les effets des mauvaises lectures. Surtout sur l'effet des mauvaises lectures sur les femmes et sur les nouveaux lecteurs dans cette période d'alphabétisation. C'est une période où cette représentation, elle n'est pas nouvelle, hein, des effets nocifs de la lecture de romans, elle remonte à Don Quichotte, qui est le livre de chevet de Flaubert quand il écrit Madame Bovary, parce qu'il a voulu faire un Don Quichotte féminin. Don Quichotte, c'est un best-seller dans les années 40, au moment de la formation de Flaubert. Il est réédité sous la monarchie de Juillet. Et à cette époque, il faut savoir aussi que les lectures romanesques, il y avait toute une théorie médicale, les lectures romanesques étaient interdites aux jeunes filles hystériques. Et ça, on le trouve aussi dans Madame Bovary, hein, parce qu'il y a un moment où il y a un lien entre l'hystérie et les lectures. Hein. J'ai analysé le roman par ce prisme. Il y a aussi une référence à la physiologie du mariage de Balzac. Je vais vous citer un extrait de la physiologie du mariage de Balzac, et vous reconnaîtrez là-dedans la trame de Madame Bovary. Aussi, en lisant des drames et des romans, la femme, créature encore plus susceptible que nous de s'exalter, doit-elle éprouver d'enivrantes extases ? Elle se crée une existence idéale auprès de laquelle tout pâlit. Elle ne tarde pas à tenter de réaliser cette vie voluptueuse, à essayer d'en transporter la magie en elle. Involontairement, elle passe de l'esprit à la lettre et de l'âme au sens. Donc vous voyez toute cette théorie en fait des effets des écrits, des idées, des œuvres sur les actes et sur le corps. Voilà. Et donc dans Madame Bovary, on trouve bien ce thème des effets nocifs de la lecture. On le trouve, alors il y a la thèse de Dominique Lacapra dans son livre sur le procès de Madame Bovary, qui est un livre très intéressant, mais qui finalement donne raison au procureur en disant que le roman est subversif. Et selon lui, cette thèse des effets nocifs des mauvaises lectures, il n'est que dans la bouche de la belle-mère. La belle-mère qui traite le libraire d'empoisonneur. Métaphore du poison, et vous vous souvenez peut-être que quand elle meurt, en ayant ingurgité du poison, c'est un goût d'encre qui lui remonte à la bouche. Donc il y a bien cette thèse dans le roman, et le lien entre lecture et maladie nerveuse est constamment présent, donc on ne peut pas réduire ça au point de vue de la belle-mère, parce qu'il forme la trame de la causalité en fait du roman. Et en fait, Emma lit les best-sellers de la monarchie de Juillet, qui commencent à pénétrer les zones rurales du Nord, dont l'alphabétisation est plus avancée que celle du Sud, dans les milieux bourgeois et petits bourgeois. Dès son enfance, elle a lu Paul et Virginie, c'était un des gros tirages de l'époque. Au couvent, on lisait des passages du génie du christianisme de Chateaubriand, par récréation, et aussi les romans que la lingère prête en cachette aux pensionnaires. Ce n'était, je cite, qu'amour, amant, amante, dame persécutée s'évanouissant dans des pavillons solitaires, postillon qu'on tue à tous les relais. Donc on voit que, d'ailleurs, Flaubert règle ses comptes avec la littérature populaire et la littérature romantique. Hein, on voit bien que ce n'est pas la littérature réaliste qui est visée là-dedans, ce n'est pas Balzac. Plus tard, les romans de Walter Scott lui font rêver Bahut, Salle de garde et Ménestrel. Elle s'enthousiasme pour l'histoire, pour le gothique. Après la mort de sa mère, elle se laisse glisser dans les méandres lamartiniens. Donc là, elle règle aussi pique à Lamartine. Et une fois mariée, ne trouvant pas le bonheur rêvé, elle essaye d'aviver ses sentiments par la poésie. Et elle appelle sa levrette Djali, du nom de la chèvre d'Esmeralda dans Notre-Dame de Paris, et désœuvrée, elle dévore Sue, Balzac, George Sand. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'Emma Bovary, vous en souvenez sans doute, elle lit seule, elle lit recluse. Elle illustre en fait les nouvelles pratiques culturelles qui étaient autrefois réservées aux classes favorisées. La lecture populaire en fait se faisait collectivement lors de veillées. Et cette lecture non accompagnée, qui échappe à la vigilance collective, cristallise en fait les craintes de voir les femmes se soustraire au contrôle social. Et puis l'autre point qui est intéressant dans ce roman, c'est qu'on voit qu'elle incarne le débat lui-même. C'est une sorte de mise en abîme du procès, d'une certaine manière, parce que c'est vraiment au cœur du débat qui fait l'objet du procès. Elle incarne aussi le rapport utilitaire et non distancié à la lecture qu'on prête aux classes populaires et aux femmes. Vous vous souvenez que ces lectures ont tantôt une visée pratique, elle lit pour décorer sa maison, tantôt elle y cherche des émotions. Vous vous souvenez peut-être des scènes où elle lit au milieu de la nuit et elle hurle de terreur, donc elle cherche des émotions. Elle a cette identification très forte, donc selon la conception en vigueur à l'époque d'un rapport utilitaire à la lecture qui s'oppose à la théorie kantienne du plaisir esthétique comme désintéressé. Qui se distingue de l'utile et de l'agréable, un type de plaisir qui était réservé aux classes cultivées. Donc il y a cette théorie des deux lectures qui prévaut tout au long du XIXe siècle, le fait que les lecteurs cultivés, ils ont les moyens de se distancier de ce qu'ils lisent, tandis que les lecteurs populaires, ils vont être dans l'imitation, dans l'identification. Ça existe encore aujourd'hui, hein. C'est encore très, très, même dans la sociologie de la lecture, vous verrez, c'est très prégnant. Voilà. Alors contre cette... Alors qu'est-ce que Flaubert pense lui-même, hein? J'ai dit la thèse de son avocat, qui est une thèse quand même qui tire Madame Bovary vers le roman à thèse. Je pense qu'on ne peut pas dire que Madame Bovary, aussi clairement, même si cette thèse existe dans le roman reste foncièrement ambigu, c'est pas tranché. Flaubert lui-même, il oscille entre deux arguments. Quand on lit sa correspondance, on voit qu'il est outré au moment de son procès. Il dit « mais mon roman est moral, c'est pas possible », etc. Et puis, il y a un autre argument qui se met en place, qui est celui qui est utilisé par Balzac et par toute la littérature réaliste, c'est de dire que la littérature n'est que le reflet du monde tel qu'il est par ailleurs. Ça, c'est l'argument de la littérature réaliste. La littérature ne fait que refléter le monde. Et donc, il considère qu'il n'a aucun effet social. Il refuse donc de reconnaître aucune responsabilité sur le fond, puisqu'il ne fait que décrire le monde tel qu'il est. Pourquoi est-ce qu'il serait responsable de ce qui existe ? Il ne reconnaît donc de responsabilité que sur la forme. Et c'est ça qui est intéressant, c'est là que naît la posture que prend encore la posture de l'art pour l'art, c'est-à-dire la reconnaissance de la responsabilité sur la forme. Alors dans la génération suivante, ces deux thèses vont donner lieu à deux lignées, les naturalistes d'un côté qui radicalisent la prétention réaliste et l'art pour l'art qui est radicalisé par les décadents et par Oscar Wilde. Alors, sous la Troisième République, avec l'accession des républicains au pouvoir, la laïcisation de la morale, en fait, s'accompagne de sa nationalisation. La culture devient l'incarnation de l'identité nationale, dont la construction passe par l'éducation qui est confiée à l'école laïque. À la littérature revient la mission d'inculquer le sentiment patriotique dès l'enfance, hein, et c'est au programme de l'école primaire, qui est devenu obligatoire par une autre loi de 1881, qui est au même moment que la loi libéralisant la presse. Donc l'idée que la lecture doit être éducative et doit former les sentiments patriotiques, civiques des enfants. En retour, la République sanctifie ses grands écrivains, qui sont sacrés prophètes de la nation, à l'image de Victor Hugo, dont les funérailles nationales en 1885 donnent lieu à une immense manifestation publique, suivie du transfert des cendres au Panthéon, qui est laïcisé en son honneur. Mais évidemment, le prix de cette responsabilité mérite, c'est une attention sociale et puis une attente redoublée, et aussi le châtiment sévère de ceux qui trahissent cette haute mission. Donc la grande loi libérale de 1880, je vous l'ai dit, libéralise la presse et privatise la religion. Elle libéralise la parole politique. Il y a eu des grands débats à l'Assemblée, mais finalement, la République ne se protège pas en tant que régime. Donc ce n'est pas inscrit dans la législation, ce qui fait qu'elle peut être attaquée dans le cadre du libre débat. Mais il va y avoir un durcissement de l'offense aux mœurs, ça c'est un phénomène intéressant, même les pénalités, c'était puni que d'un an de maximal, la peine maximale c'était un an de prison, et ça passe à 2 ans, parce que la République doit faire preuve de sa respectabilité à un moment d'intensification et d'internationalisation de la lutte contre la pornographie, une lutte qui est engagée au nom de l'intérêt national, et qui intervient dans un contexte de médicalisation de la sexualité qui est devenue une question d'hygiène nationale et s'articule à la lutte contre le malthusianisme, l'alcoolisme, la syphilis, la prostitution de rue, les déviances sexuelles, le suicide, qui sont constitués à la fois comme symptômes et comme cause d'une pathologie du corps social qui se manifeste aussi dans la baisse des taux de natalité. C'est une obsession française. Après la défaite face à l'Allemagne, cette baisse des taux de natalité, donc cette pathologie, cette dégénérescence, c'est le terme générique qui s'impose comme paradigme, menacerait l'avenir de la nation. Alors vous voyez que ce schème normal pathologique vient remplacer le schème du bien et du mal qui prévalait jusqu'à là, le schème religieux du bien et du mal, et ça montre aussi le pouvoir acquis par les médecins à cette époque, par le paradigme scientifique. Les médecins, ils sont très présents par exemple au Parlement. Donc c'est le témoignage de cette laïcisation de la morale qui du coup renforce les luttes de concurrence pour l'exercice du pouvoir spirituel. Vous avez des nouveaux entrepreneurs de morale laïque qui se recrutent parmi les éducateurs, les professions libérales, les médecins, les psychiatres, les juristes, et aussi parmi les sociologues, les criminologues. Donc la légitimation de la science par l'État accélère cette division du travail d'expertise et le développement professionnel de ces activités qui se voient progressivement reconnaître le monopole dans certains domaines de compétences. Donc face à ce prestige croissant de la science et du savant incarné par Pasteur, l'écrivain doit redéfinir son pouvoir symbolique. Hein. Quelle place doit-il occuper dans la société et quel est le fondement de son autorité? Alors il y a deux stratégies qui se dessinent alors, on peut en dessiner une troisième, mais dans ce rapport-là, c'est d'une part l'alliance avec la science, qui est évidemment l'option choisie par les naturalistes, et puis il y a l'alliance avec la religion, que je ne développerai pas ici, mais qui passe par toute une dénonciation de la modernité, c'est-à-dire de la démocratie, du libéralisme économique, du capitalisme, etc. Et donc ces deux stratégies impliquent deux conceptions différentes de la responsabilité. j'y reviendrai juste à la fin, mais sans trop développer. Je voudrais juste évoquer le cas de Zola et des naturalistes, parce que Zola, donc, il avait dit « la République sera naturaliste ou ne sera pas ». Évidemment, elle ne l'a pas été, parce que Zola, il prétendait fonder en fait une expertise littéraire sur le monde social. Il voulait faire reconnaître la littérature comme une science. Mais il échoue. Et en témoignent les procès de ses disciples. On n'ose pas s'attaquer à Zola parce qu'il a trop de succès, donc ça ferait un grand scandale. Mais on poursuit ses disciples, c'est les jeunes naturalistes, qui sont les premiers visés par la vague de répression qui débute en 1884, sachant que la littérature ne jouit pas de la même immunité que les médecins, qui, eux, sont protégés par rapport aux ouvrages de vulgarisation médicale, par exemple. Alors moi, je pense qu'une des raisons de cet échec, pourquoi on pourrait se demander pourquoi cet échec, finalement, est-ce que la littérature devienne une expertise ? Moi, je pense que, à la différence des spécialistes, des professionnels qui utilisent les gants du vocabulaire technique, du jargon, qu'ils confisquent en fait le savoir aux profanes, ces écrivains naturalistes en fait introduisent dans le discours imprimé le langage des milieux qu'ils observent, et du coup ils sont comme contaminés par leur objet. On leur impute, c'est comme dans le cas de Baudelaire, on lui imputait les vices qu'il décrivait dans Les Fleurs du Mal, parce qu'on passait de la morale de l'œuvre à la morale de l'auteur de manière automatique. Et là c'est pareil, le fait même qu'ils utilisent ce vocabulaire des milieux qu'ils observent, et aussi qu'ils livrent ce savoir au grand public, contrairement aux professionnels, aux spécialistes, aux médecins, aux psychiatres, qui ne livrent pas en fait leur savoir aux profanes, qui confisquent ce savoir. Et en fait, on leur reproche à ces naturalistes leur méthode réaliste et leur langage qu'on accuse d'obscénité à une époque où le langage est un enjeu national, la langue est un enjeu national. Et on reproche à leur littérature d'être malsaine, selon le schéma normal pathologique. Et la critique parle de littérature putride. Alors, en défense contre ces accusations, les naturalistes revendiquent le caractère scientifique de leur démarche. Alors, c'est le cas, par exemple, de Charles Bonnetin, qui est poursuivi pour son roman « Charlot s'amuse », qui traite d'un onaniste victime d'une tare héréditaire. Il est le fils d'un alcoolique dont la mère s'est prostituée sur la tombe de son père mort d'alcoolisme. Et donc, il est victime d'une tare héréditaire. C'est les schémas de l'époque sur la dégénérescence. Ils n'ont pas beaucoup inventé, ils n'ont pas été très originaux ni très critiques par rapport à ces schémas médicaux. Mais de fait, c'était les théories qui prévalaient dans toute la littérature médicale. Il avait juste mis en acte. Alors, il va être finalement acquitté parce que son avocat a pu démontrer que le livre, d'abord c'était un gros livre, et puis qu'il avait une tonalité triste, et que donc ça n'était pas une glorification de l'onanisme. Voilà. Un autre jeune naturaliste, son contemporain Louis Després, sera moins chanceux. C'est vrai que lui, dans son roman Autour d'un clocher, il avait décrit dans un style plutôt rabelaisien, donc assez dionysiaque, les amours d'un curé avec une institutrice. Et donc, du coup, évidemment, ça atteignait à deux piliers de l'ordre social. Et donc, il avait un co-auteur qui a été écarté parce qu'il était mineur. Et donc, il a décidé, il avait 27 ans, il a décidé d'aller se défendre tout seul à son procès. Et son plaidoyer est un texte magnifique que je vous recommande, qui est accessible en ligne, qui s'appelle « Pour la liberté d'écrire », qui a été réédité aux éditions du Léraud, je crois. Alors, selon lui, en fait, l'offense aux mœurs par la littérature est indéfinissable. Parce qu'il n'y a pas de corps de délit. C'est quoi le corps du délit dans le cadre de l'offense aux mœurs ? Parce qu'on cherche un corps de délit, il n'y a pas de matérialité. Il dit donc qu'on punit en fait sur une intention. Et il dénonce en fait l'hypocrisie qui consiste à interdire de décrire un accouplement quand des descriptions détaillées de meurtres s'étalent dans toutes les pages de journaux. Et ce n'est pas parce qu'il y a des descriptions détaillées de meurtres qu'on va commettre tout de suite des meurtres le lendemain. Donc la théorie de l'imitation, elle a quand même certaines limites. Voilà. Alors, cet argument, évidemment, ne l'a pas beaucoup aidé dans sa défense. Il a été condamné à un mois de prison et la détention semble avoir aggravé une maladie qu'il avait. Et il est mort quelques mois plus tard, à l'âge de 28 ans. Et Zola publiera dans la presse un article dénonçant, en fait, le pouvoir qui a tué cet enfant. L'autre argument de Després, c'était de récuser le verdict d'un jury incompétent. Évidemment, ça ne l'a pas aidé non plus. Il ne reconnaissait pas donc le verdict du jury parce qu'il disait qu'il ne reconnaîtrait que le verdict d'un tribunal composé de Zola, Daudet, Banville, Richepin. c'est-à-dire ses pairs, des écrivains, hein, qui seraient capables de juger véritablement son œuvre. Un jury de professionnels. Alors, ça n'est pas une lubie, en fait, il emprunte son modèle aux professions libérales qui ont effectivement leurs propres experts. On soumet le produit de ses savoirs à des pairs. Évidemment, ça ne pouvait pas passer, mais ce qui est intéressant, c'est que 5 ans plus tard, on voit que cette idée a fait son chemin, parce que 5 ans plus tard, lorsque des poursuites sont engagées contre Lucien Descaves pour son roman Sous-Off, donc c'était un roman qui dénonçait, enfin qui décrivait, c'est une sorte de satire des mœurs militaires, des sous-officiers, parce que on avait, le service militaire était devenu obligatoire, et donc les écrivains avaient fait l'expérience du service militaire, et donc c'était devenu un cadre de description romanesque, et l'armée était un enjeu national, évidemment, une des nouvelles institutions sacrées de la société. Et en fait, dans ce roman, au moment des poursuites engagées contre cette satire des mœurs militaires, Sous-Off, il y a une pétition d'écrivains qui est publiée en défense de Descaves dans la presse. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est en fait la pratique inaugurale de cette... c'est l'acte inaugural, pardon, de cette pratique de mobilisation collective qui va s'institutionnaliser avec l'affaire Dreyfus. Parce que le moment de l'affaire Dreyfus, c'est l'engagement collectif des écrivains qui mettent en commun leur capital symbolique pour dénoncer une injustice. Or, l'antécédent de ça, c'est cette défense, cette mobilisation des écrivains pour défendre Descaves face à la justice. Alors, Descaves est accusé d'injure à l'armée et d'offense aux mœurs. Et parce qu'on voulait corser l'affaire, parce que l'injure à l'armée, c'était que 3 mois de prison, et l'offense aux mœurs, ça permettait de condamner à plus. Alors, les arguments sont intéressants, parce que pour sa défense, en fait, le procureur essaye toujours de tirer le roman vers le pamphlet, de dire que c'est en fait un pamphlet, mais le défenseur, lui, invoque la nécessité de dire la vérité pour améliorer l'état des choses. C'est-à-dire que le rôle de l'écrivain, c'est de dénoncer des tares dans la société, et qu'il ne faut pas les cacher, mais il faut les dénoncer pour les améliorer. C'est le rôle des écrivains et des journalistes en régime démocratique. Et pour lui, la seule question qui se pose, c'est de savoir si ce que son client a décrit est vrai. Or, Descaves, outre son expérience personnelle, s'était appuyé sur les jugements des conseils de guerre. Donc, il pouvait produire les preuves que ce qu'il racontait était vrai. Et de fait, il va être acquitté. Alors, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que ça illustre la lutte entre la littérature et l'armée, entre la plume et le sabre, le pouvoir spirituel et temporel qui fonde la République. Et on va retrouver cet affrontement au moment de l'affaire Dreyfus, dans le face-à-face entre Zola et le général de Pellieu lors du procès de Zola. Lorsque le général de Pellieu insinue l'idée que les écrivains sont des oisifs improductifs et inutiles à leur pays, Zola s'exclame d'un ton indigné, c'est la sténographie qui précise, il y a différentes façons de servir la France. On peut la servir par l'épée et par la plume. Monsieur le général de Pellieu a sans doute gagné de grandes victoires. J'ai gagné les miennes. Par mes œuvres, la langue française a été portée dans le monde entier. J'ai mes victoires. Je lègue à la postérité le nom du général de Pellieu et celui d'Émile Zola. Elle choisira. Donc, vous voyez qu'elle a choisi. Donc, on ne va pas revenir ici sur l'affaire Dreyfus. Je veux juste rappeler que l'engagement de Zola dans cette affaire se fait au nom de la vérité. Et il dit « Toute ma vie, je n'ai fait que défendre la vérité ». Donc, c'est pour lui un prolongement de son œuvre de naturaliste que cet engagement pour faire triompher l'innocence du capitaine Dreyfus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il... Son j'accuse, en fait, qui emprunte au modèle de Voltaire dans l'affaire Callas, hein, Callas qui avait été accusé d'avoir tué son fils qui s'était converti au catholicisme dans une période de guerre de religion, alors que plus probablement le fils s'était suicidé, et donc le père a été exécuté à la suite de cette la mort de son fils. Et Voltaire était intervenu dans un texte célèbre qui défendait la tolérance. Donc c'était un peu cet acte inaugural. Et donc Zola réitère ce geste de retourner l'accusation contre la justice et de dire, donc son titre J'accuse est une manière de prendre en main, en fait, la justice qui n'est pas assurée par les magistrats. Alors vous voyez que cet engagement, c'est un engagement sur des bases autonomes, parce que ça ne répond à aucune demande externe, personne ne lui a demandé de faire ça, et c'est basé, c'est pas une demande politique ni une demande religieuse, et c'est basé sur sa propre éthique professionnelle, sur des valeurs comme la vérité, la justice, donc des valeurs intellectuelles, hein, parce que la question de juridique, c'est aussi de la vérité, c'est aussi une question de vérité, de faire la preuve, de démontrer, donc des valeurs qui sont universalisées dans ce combat. Alors, donc, il forge cette figure de l'intellectuel engagé, fondée sur l'autonomie, qui s'oppose à trois autres conceptions de la responsabilité à cette époque. L'art pour l'art, qui est incarné par les décadents et par Oscar Wilde, qui, dans la continuité de Flaubert et de Baudelaire, refuse de soumettre le jugement de l'art à des contraintes extralittéraires. Donc, c'est une conception de l'autonomie qui dénie à l'écrivain toute responsabilité autre que sur la forme de ses écrits. La deuxième conception, c'est une conception qu'on peut définir comme hétéronome, qui existe aussi à cette époque, qui est fondée sur la responsabilité objective. C'est l'idée que les artistes, esthètes, seraient un facteur de dégénérescence pour la société. En fait, on en trouve l'origine dans Lombroso, justement, dans son livre « L'homme de génie ». Et elle est reprise en France par un sociologue qui s'appelle Jean-Marie Guyot et puis par l'essayiste Max Nordau. C'est pas en France, son livre est traduit. Après le procès d'Oscar Wilde, mais il est largement commenté, donc cette idée se diffuse. L'idée que l'individualisme de ces écrivains esthètes, les écrivains, les décadents, Oscar Wilde, leur désir de se singulariser serait révélateur de leur caractère antisocial. Et donc leur esthétisme, qui refuse de soumettre l'art à des critères moraux ou sociaux, paraît à Nordau le symptôme d'un défaut de sens moral, signe d'une tare héréditaire qui les rend dangereux pour la société. Donc c'est vraiment le paradigme de l'art dégénéré, et vous voyez qu'on n'a pas entendu le nazisme pour élaborer ce paradigme. Et la dernière conception qui se constitue à ce moment-là, c'est une conception qu'on peut dire hétéronome, qui est développée par des écrivains catholiques, notamment par Paul Bourget, qu'on peut résumer en une phrase, c'est de dire les écrivains prennent conscience de leurs responsabilités et elles doivent limiter leurs droits. La responsabilité de l'écrivain limite ses droits. Il doit prendre conscience des effets objectifs de son œuvre, indépendamment de ses intentions. Et en fait, c'est une conception qui est un peu le relais de la doctrine de l'Église, formulée dans le Syllabus, selon laquelle l'idée que toute vérité est bonne à dire serait une des 80 erreurs modernes. Voilà. Est-ce que j'ai le temps de dire 5 minutes sur l'épuration ? D'accord. Oui, parce que je voudrais clore autour de la question de l'épuration, qui a été un moment où a culminé en fait le débat sur la responsabilité de l'écrivain, parce que, comme je vous l'ai dit, les écrivains et journalistes collaborationnistes ont été poursuivis pour le crime d'intelligence avec l'ennemi, un crime de trahison, et ces intellectuels étaient le plus à même en fait d'incarner ce crime de trahison et en fait d'individualiser la responsabilité collective de la collaboration. Parce que la collaboration, c'était largement une responsabilité objective du fait de la collaboration structurelle quotidienne imposée par l'occupation. Et en fait, à travers ces écrivains, à travers le fait qu'ils ont des noms propres, qu'ils ont écrit dans la presse pour soutenir en fait cette politique de collaboration, ça permet d'individualiser et de subjectiver la responsabilité. Alors, dans ça, et en fait, ces noms aussi sont des noms connus, donc ça permet aussi de faire des châtiments exemplaires. Voilà. Alors, dans ces procès, ce qui est intéressant, c'est que les écrits constituaient des preuves à charge accablantes. Il y a un avocat qui dit, un magistrat qui dit, dans ce procès, il n'y a pas d'autre témoin que vos écrits, et ils suffisent largement. Mais cependant, la défense dénonce la procédure comme des procès d'opinion, en disant que donc, dans un régime de liberté de presse, l'opinion est légitime. Donc, même si c'est une opinion dissidente, elle a le droit de s'exprimer. Donc, vous voyez qu'il y a une sorte d'ambiguïté, de tension sur la définition du crime. Donc, les opposants invoquant la liberté de presse contre ceux qui sont en train de rétablir un régime démocratique républicain et qui poursuivent des écrivains pour leurs écrits, alors pour des écrits qui étaient des écrits journalistiques et politiques et pas des écrits littéraires. Mais alors en fait, sur quoi se fondait l'accusation ? Elle se fondait sur ce qui était défini dans la loi comme des actes de trahison, à savoir la propagande en faveur de l'ennemi. Donc c'est la loi qui assigne à la parole, dans certaines circonstances, un pouvoir performatif, hein, qui considère ces écrits de propagande comme des actes. Donc au cours de l'instruction, le juge distinguait les écrits politiques des écrits littéraires. Il écartait les écrits littéraires de la prévention, ce qui montre une reconnaissance de l'autonomie de ces écrivains. Et en fait, la stratégie de la défense consistait à dissocier l'écrivain et le polémiste, de dire, bon, le polémiste s'est trompé, mais il faut sauver l'écrivain, c'est une des gloires de la nation, on ne va pas le condamner à mort. Donc pour la défense, vous voyez que le talent constitue une circonstance atténuante. Mais pour l'accusation, c'est le contraire. Le talent constitue une circonstance aggravante, parce qu'elle accroît le pouvoir persuasif de l'écrivain, son pouvoir d'influence, en fait. Donc elle lui confère à ses écrits une plus grande portée. Et dans le procès Brasillach, par exemple, le procureur lui a reproché d'avoir abusé de ses dons, de ses succès, de cette autorité. Et c'est une conception qui était partagée par le pouvoir politique, parce que De Gaulle a écrit dans ses mémoires de guerre, en faisant allusion à son refus de gracier Brasillach, dans les lettres que je cite comme en tout, le talent est un titre de responsabilité. Alors cette question de la responsabilité de l'écrivain a très rapidement divisé la communauté littéraire entre les intransigeants et les indulgents, des termes qui se référaient à la Révolution française, parce qu'on était dans un contexte qui se voulait révolutionnaire. Et ce qui est intéressant, c'est que ça correspond très largement à un clivage générationnel, c'est-à-dire que les intransigeants se recrutent plutôt parmi les hommes ayant la soixantaine, tandis que les intransigeants, ce sont plutôt les jeunes, la jeune génération qui émerge à cette époque, qui a la quarantaine, des gens comme Camus, comme Sartre, comme Vercors, comme Éluard. Et cet affrontement d'abord prend forme dans une sorte de duel duel de plumes entre Camus et Mauriac autour de justice ou charité. Et puis elle va se confirmer autour de la condamnation à mort de Brasillach et son exécution. Alors d'abord, il y a une pétition de soutien au recours en grâce formulé par Brasillach que les représentants de la jeune génération ont refusé de signer, à l'exception de Camus, qui a fini par la signer après avoir hésité toute la nuit, parce qu'il était contre la peine de mort. Et peut-être aussi parce que ce que disait la pétition, c'était que la seule chose qui était dite, c'était que Brasillach avait perdu son père pendant la Première Guerre mondiale, et que donc pour la mère de Brasillach, on ne pouvait pas aussi exécuter son fils. Camus lui-même a perdu son père dans la Première Guerre mondiale. Il a le même âge que Brasillach. Il a 35 ans. Il détestait Brasillach. C'était pas de la sympathie, mais cet argument l'a peut-être touché. Mais c'est surtout la question d'être contre la peine de mort. Alors le débat qui se déclenche après l'exécution de Brasillach, c'est un débat sur les limites de la responsabilité de l'écrivain. Hein, les indulgents tentent de relativiser la responsabilité de l'écrivain par comparaison avec ceux qui ont alimenté la machine de guerre. Lors du procès de Brasillach, son avocat, Maître Isorni, avait demandé si l'on requiert la mort contre un poète comme Brasillach, quelle peine réserve-t-on aux marchands de canons ? Et Jean Paulhan, qui est un des fondateurs de la résistance littéraire, invoque le droit à l'erreur, le droit à l'aberration. Il dit que pour lui, le crime réside dans les actes et non dans la parole. Hein, la responsabilité incombe à ceux qui ont réalisé les idées plutôt qu'à ceux qui les ont émises. Il a cette fameuse parabole du mur de l'Atlantique en disant ceux qui ont bâti le mur de l'Atlantique, c'est un symbole de la collaboration, se promènent librement parmi nous, alors qu'on met en prison les journalistes qui ont écrit que le mur de l'Atlantique était bien bâti. Donc les idées seraient moins importantes que les actes. Alors qu'est-ce que répond la jeune génération ? C'est Sartre qui va répondre à Paulhan dans « Qu'est-ce que la littérature ?» Il répond à Paulhan que l'écriture est un acte. Et c'est cette idée qui va fonder toute sa théorie de la littérature engagée. Ce qu'on écrit engage. Il dit, ça se voit malgré nous, hein, par les procès, la responsabilité de l'écrivain, dit Sartre, lors de la première conférence de l'UNESCO en 1946, il est invité à faire une conférence, il parle de la responsabilité de l'écrivain, et dit, la responsabilité de l'écrivain, elle est illimitée, contrairement à celle du médecin ou du cordonnier, qui a, lui, une responsabilité limitée, parce que, dit Sartre, nommer, c'est donner sens aux choses. Alors en même temps, ça ne veut pas dire qu'il se rallie à la théorie de la responsabilité qui prévaut à cette époque. Il dit, bon voilà, les procès de l'épuration nous ont montré les attentes que la société avait à notre égard, mais sa conception ne repose pas sur une conception, une définition nationale de la responsabilité. Et au contraire, sa théorie de la littérature engagée opère une dénationalisation du concept de responsabilité qui était, comme vous le voyez, encore fortement ancré dans le cadre national, puisque les écrivains étaient jugés comme traîtres à la nation. C'est au moment où on forge la notion de crime contre l'humanité au procès de Nuremberg, mais ça ne s'applique pas en France. Donc les procès, ils portent sur la trahison. Et Sartre, ce que lui fait, c'est de rattacher en fait la notion de responsabilité à sa philosophie de la liberté. Pour lui, l'écrivain incarne la liberté suprême. L'acte d'écrire, de créer, justement, se différencie de l'artisan qui crée selon des, enfin qui produit selon des règles. Et donc, l'écrivain est un créateur. Et comme il est l'expression suprême de la liberté, il a pour mission, pour devoir, de garantir la liberté des autres, parce que la littérature est un acte de communication. Et s'il ne garantit pas la liberté de ses lecteurs, il s'annihile lui-même comme écrivain. Donc il doit lutter partout pour la liberté de ses lecteurs. Voilà. J'avais prévu en conclusion de retracer quelques évolutions depuis 1945, mais peut-être on peut en parler dans la discussion. Voilà.
Merci. On a 10 minutes pour les questions. J'espère qu'il va y en avoir. Merci beaucoup, madame. C'était passionnant. C'est dommage qu'on n'ait pas entendu la fin, mais on verra dans la discussion. Mais c'était vraiment passionnant. J'espère que vous êtes conscients, les étudiants, de la belle conférence que vous venez d'avoir. Et je passe le micro à monsieur Riodel qui va animer les questions.
Bien. Animer, oui, entre guillemets, parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup de temps. Il y a une autre conférence après à 8h30, mais... Il y a quand même place à une ou deux questions, si vous... Oui ?
Oui, donc vous parlez beaucoup de procès donc, pour trahison nationale, mais on vous parlez pas de procès, en fait, enfin, le contenu des procès, pour enfin, relativement au génocide. Et je voulais savoir un petit peu si en France, c'était... une notion qui était valide ou au contraire qui n'était pas encore sur le marché en quelque sorte. Je voulais savoir un petit peu votre position par rapport à ça. On m'avait dit que le procès, me semble-t-il, c'est des vieux souvenirs, Laval s'était défendu lors de son procès en disant « oui, mais j'ai quand même tué beaucoup de juifs ». Ce qui paraît surprenant aujourd'hui, alors j'aurais voulu savoir un petit peu si c'était vrai et si ça rentre dans le cadre de la discussion que nous avons.
Alors, c'est une question qui est effectivement très, très pertinente et importante parce que, tout d'abord, les premiers procès de l'épuration, ils ont lieu avant mai 1945. La libération de Paris, la chronologie est importante, hein, septembre 1944. La fin de la guerre, c'est le 8 mai 1945. C'est-à-dire que c'est avant le retour des déportés. On ne sait pas ce qui s'est passé de manière claire à cette époque. Il y a le sens qu'il s'est passé quelque chose de grave, mais on n'en prend pas du tout la mesure. Je pense qu'on n'en prendra la mesure en France qu'avec le retour des déportés. Donc déjà, ça fait une différence entre il y a un certain nombre de procès qui ont lieu et ça veut dire aussi que jusqu'en mai 45, on est encore sous une législation qui est une législation de guerre, puisqu'on est encore en guerre, ce qui explique aussi que les châtiments ont été plus sévères, les peines ont été plus sévères. Les écrivains, les intellectuels ont été les premiers jugés parce que les pièces étaient faciles du dossier à instruire et les preuves étaient accablantes. Hein. Et en plus, ça permettait de faire exemple. Alors, dans le procès Brasillach, alors ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ils sont poursuivis, pourrais-je l'ai bien dit, pour intelligence avec l'ennemi. C'est ça le crime. La question de l'antisémitisme, elle intervient... comme subordonné à cette question, c'est-à-dire d'avoir proféré des dénonciations collectives. Donc ça vise les communistes, les gaullistes et les juifs. Hein. Donc les dénonciations collectives faisaient partie de ce qui était dénoncé comme un acte. un acte de propagande qui favorisait l'ennemi et qui nuisait en fait à la nation. Dans le procès de Brasillach, il est rappelé, le commissaire du gouvernement rappelle que Brasillach, au moment des rafles des Juifs en 1942, avait dit « et n'oubliez pas les petits ». Et il y a beaucoup de citations antisémites qui sont aussi apportées comme preuve. Mais Brasillach se défend, alors pas là-dessus, là-dessus il se défend autrement, c'est un peu compliqué, je ne vais pas développer, mais sur l'antisémitisme, Brasillach se défend en disant, mais parce que son argument c'est de dire mes opinions sont mes opinions, mais je n'ai pas trahi. J'ai pas trahi la nation, c'était, je pensais au bien de la France. C'est leur argument à tous. Je me suis peut-être trompée, etc. Mais voilà. Et son argument, c'est de dire que l'antisémitisme, il est pas son antisémitisme, il n'est pas d'importation. Il s'ancre dans une tradition bien française. En quoi il n'avait pas tort hein, de dire ça. Voilà. Donc, alors dans le procès, il y a un des procès. Je pense que c'est Harold Packy en septembre. Apparaît la notion. De crime de guerre, c'est-à-dire qu'on cherche un crime qui soit supérieur en fait au crime de trahison, mais ils sont pas poursuivis pour ça. C'est une manière de corser en fait l'accusation. Et au moment du, en fait, comme je disais, la notion de crime contre l'humanité n'a pas d'application en France avant 1960, hein, donc ils sont pas poursuivis pour ça. La notion de génocide n'existe pas à cette époque. Et par contre, ce qu'on trouve, c'est chez Simone de Beauvoir, et la théorie de Sartre, elle est aussi fondée là-dessus. Peu après Nuremberg, elle publie un article dans Les Temps modernes qui s'appelle Œil pour œil, et elle dit que Brasillach a commis un péché contre l'homme parce qu'il a dégradé l'homme en chose. Donc là, on voit qu'il y a une conception beaucoup plus large que la question de la trahison. Voilà. Mais de fait, en fait, donc ça apparaît, mais d'une manière toujours subordonnée en fait, à la question de la... Parce que c'était ça l'acte, l'accusation, c'est ce que les lois permettaient de poursuivre. Oui, oui, c'est très tardif, bien sûr. Bien sûr.
Peut-être qu'on pourrait... Monsieur avait une question. Et peut-être qu'on peut regrouper
oui,
deux
regrouper
questions,
les questions,
et puis on... Pardon.
Bon, c'est une observation et une question qui peut s'élargir avec. J'ai trouvé votre exposé intéressant. Je dirais que la responsabilité, à votre sens, n'échappe pas à l'histoire et à l'histoire de notre pays. Et vous avez distingué quatre périodes. Alors, c'est amusant, je vais vous dire pourquoi. Parce que vous avez la Révolution, la Restauration, l'entre-deux-guerres et puis l'après-guerre, enfin, immédiatement après. Mais j'ai eu l'occasion de suivre un exposé comme le vôtre, sur la responsabilité des fonctionnaires. Et il y a énormément de points communs, quoi. Alors, il y en a un que vous n'avez pas développé, mais bon, la responsabilité des fonctionnaires par rapport au pouvoir, au pluriel, c'est est-ce qu'il est complètement responsable, pas responsable du tout, un petit peu responsable. Et ça évolue au même moment, avec les lois correspondant, la constitution de Lancet, 84, etc. Les lois sur le syndicalisme, etc. Et donc, la question qui peut s'en rapprocher, c'est, je trouve qu'on a envie, à vous écouter, de voir ce qui se passe maintenant avec l'économie numérique, parce que c'est peut-être ce qu'intéresse les étudiants. Vous avez dit alors que ça pouvait être un matériel, donc finalement la question a déjà été évoquée dans votre exposé, mais bon, sans doute la prochaine fois vous viendrez, vous nous parlerez de l'économie numérique et des conséquences sur ce qui existe. Merci.
Je vous remercie. Une question d'étudiant.
Bonjour. Vous avez beaucoup parlé de ce qui s'est passé en France, mais moi je me demandais surtout en quoi, par exemple, aujourd'hui l'arrivée d'Internet a changé la responsabilité de l'écrivain, dans le sens où maintenant n'importe qui peut prendre un pseudonyme et écrire sous ce nom, et jusqu'à quel point on peut associer justement cette responsabilité, et jusqu'où ça va au niveau mondial, avec par exemple les écrivains chinois qui doivent s'exiler de leur pays. Et j'aimerais savoir ce que vous en pensez.
Passe la parole à Gisèle Sapiro, oui, qui va conclure en même temps cette
oui,
soirée.
Oui, donc ce sont des questions convergentes, donc je vais répondre ensemble. Effectivement, il y a pas mal de transformations depuis 1945 que je voulais développer en conclusion, mais une d'entre elles peut être effectivement la question des supports. Cela dit, je ne pense pas que les supports changent foncièrement de nature le problème, parce que la question des pseudonymes... écrivains ont toujours écrit sous pseudonyme. Hein. C'était vraiment une pratique très courante. Sous l'occupation, on s'amusait, les écrivains entre eux, on s'amusait à essayer de deviner qui était Vercors, qui était plein d'hypothèses. Ça renforçait un peu le pouvoir de sacralisation du nom d'auteur, paradoxalement. Sur la question de l'étranger, c'est aussi très intéressant, mais c'est pas nouveau non plus, parce qu'il y avait une législation qui, dans les lois de 1880, s'applique toujours. Il y a une législation sur le statut des publications étrangères ou d'auteurs étrangers qui a permis, par exemple, de poursuivre les écrits d'André Miller. Donc il y a eu toujours cette question. Alors évidemment, parce que la question de la législation, elle reste confinée à un cadre national. On croit qu'il n'y a plus de territoire aujourd'hui, mais c'est très faux. Sur l'édition, par exemple, je travaille par ailleurs sur la question de la traduction. Je peux vous dire qu'il n'y a jamais eu autant de batailles de territoire qu'en ce moment sur la question où est-ce que, par exemple, les Anglais peuvent distribuer leurs livres. Les Américains essaient ils distribuent par exemple leurs livres dans les anciennes colonies de manière systématique. Les Américains essaient de venir sur leur terrain. Enfin voilà, donc il y a des batailles de marché et donc de batailles pour le contrôle du marché et le contrôle des frontières. Et donc chacun, la question de la législation, elle s'applique dans les frontières. Ce qui permet justement en Chine de déroger au principe de base de la liberté de presse et par Internet d'imposer de la censure. Donc vous voyez qu'on n'échappe pas complètement à ça. Alors la question de chacun peut s'exprimer, bien sûr, mais c'était aussi le cas finalement avec l'écrit, parce qu'on peut toujours faire imprimer, il y a beaucoup d'impressions à compte d'auteur. Alors par contre, la diffusion est beaucoup plus large, donc c'est comparable au passage entre 18e et 19e, ou au passage entre fin 19e et début 20e, quand on passe d'une presse qui circule à 100 000, 200 000 exemplaires à une presse qui circule à 1 million, 2 millions d'exemplaires. Voilà, donc ce sont ce genre, mais je pense pas qu'il y ait une différence de nature. Après, il y a la question du statut de l'écrivain qui peut être remis en cause d'une certaine manière, encore qu'il a jamais été aussi professionnalisé qu'aujourd'hui, l'écrivain ou l'écrivaine, parce que c'est aussi une profession qui s'est beaucoup féminisée. Moi, je vous ai cité que des hommes, mais il y avait aussi un certain nombre de femmes, mais elles étaient moins nombreuses qu'aujourd'hui. Mais ce que je voudrais, j'en profite, puisque la question c'est les évolutions aujourd'hui, pour dire qu'il y a une des choses importantes qui s'est développée, et ça peut concerner aussi Internet, ou par exemple la manière dont la censure est exercée en Chine par Internet, c'est le développement de la censure administrative qui empêche tout débat. Parce que finalement, une poursuite au pénal, ça permet qu'il y ait un débat public sur la question de l'œuvre même, de la responsabilité. Or ça a décliné depuis une forme de libéralisation, et puis l'État engage de moins en moins de poursuites, donc on se rapproche d'une certaine manière du modèle américain, parce qu'on attend qu'il y ait des plaintes, des ligues de moralité. Les ligues de moralité ont été autorisées à poursuivre par la loi de 1939. Et donc, il y a encore des poursuites engagées par l'État. Il y a eu des affaires récentes. Par exemple, l'affaire Rose Bonbon, qui était le roman, l'histoire d'un pédophile à la première personne, publié chez Gallimard, et qui, finalement, il n'a pas été censuré, mais il y a eu des négociations, et il a paru, la négociation, c'était qu'il paraisse sous cellophane, donc on ne puisse pas le feuilleter en librairie, ce qui est quand même, franchement, d'une hypocrisie et d'un ridicule achevé, si on pense, par exemple, aux jeux vidéo, enfin, tout ce qu'on peut, voilà. Donc, il y a ça, développement de cette censure administrative, qui permet d'interdire. Alors, ce qui est intéressant aussi, l'évolution, c'est qu'on n'interdit plus au nom de l'intérêt national. Ça a été encore vrai, c'est vrai dans des moments de crise comme la guerre d'Algérie. Ça peut revenir, hein. C'est encore inscrit dans les textes, donc ça peut revenir, mais dans la pratique, c'est plus le cas. Par contre, on poursuit au nom de la protection de l'enfance. Mais au nom de la protection de l'enfance, on peut poursuivre n'importe quoi, n'importe quel écrit, parce qu'il y a une clause qui permet de poursuivre n'importe quelle chose ce qui pourrait tomber entre les mains d'un enfant. Et puis on voit, ce qu'on voit aussi, c'est une, donc il y a une sorte de dénationalisation, mais on voit aussi une privatisation en fait. Donc j'ai dit des poursuites, des plaintes avec le rôle accru des ligues de moralité, mais aussi de plus en plus de plaintes en diffamation ou en pour atteinte à la vie privée. Hein. Ça, il y a plein d'affaires en ce moment. Par exemple, Christine Angot est poursuivie par son ancien compagnon parce que elle fait état de leur vie privée, et donc il reproche. Et des procès entre... Ah oui, il y a enfin, ce n'est pas des procès. Vous pensez à Camille Laurence et Marie Tarussec, ce n'est pas un procès. C'est pas un procès. Elle est accusée de plagiat psychique, mais voilà, c'est une polémique. Hein. Voilà. Mais effectivement, il peut y avoir des procès en plagiat, etc. Mais ça, il y en a toujours eu. Il y en a peut-être plus. Mais cette privatisation, en fait, elle est assez intéressante. Il y a, par exemple, en diffamation, il y a l'affaire de Sévère de Régis Jauffray qui raconte l'histoire de ce banquier Stern qui a été assassiné par sa maîtresse. C'est l'histoire de la combinaison de latex là, en Suisse. Et en fait, donc, Régis Jauffray en a fait un roman. Une fiction, c'est pas les vrais noms. Alors que cette affaire a été largement relatée dans la presse, c'est un fait divers que se sont toujours empérés les écrivains. Et là, la veuve a engagé un procès contre Régis Jauffray au moment où il était question d'en faire un film, parce que ça, c'est un autre point que j'ai pas dit, mais en fait, le développement de l'image depuis 1945 a relativisé la dangerosité du livre, parce que l'image a toujours été considérée comme plus dangereuse que le livre, mais elle était moins diffusée. Il n'y avait pas tous les moyens techniques qu'il y a aujourd'hui. Donc, d'une certaine manière, l'écrit est devenu une sorte de... C'est dépolitisé. C'est en tout cas devenu... La lecture a été désormais considérée comme mieux que l'image, plus éducative que finalement... aujourd'hui, on considère qu'il vaut mieux lire n'importe quoi que de regarder des films, quoi, voilà. Donc ça fait partie de ces évolutions.
Bien, mais je vous remercie beaucoup. Je voudrais remercier encore une fois l'espace Pierre Mendès France et Gisèle Sapiro, qu'on peut applaudir une nouvelle fois. Dire que ça va être mon cas, on va partir de là très frustré parce qu'on avait plein de questions, envie de poursuivre cette discussion. Mais l'esprit de ces conférences, c'est qu'il y ait un va-et-vient entre les cours, les séminaires, la formation, tout ça peut être repris, rediscuté à la fac. Et puis ça continuera avec d'autres... Voilà, les conférences sont enregistrées. En tout cas, merci pour ces éclairages. Merci pour toutes ces questions que vous soulevez également et qu'on aurait envie de poursuivre dans les discussions avec vous. Bonne soirée.